Baruch Hashem, maintenant, on est...
D'accord.
C'est pas ton livre.
Voilà. Baruch Hashem, maintenant, on est à la suite de Kippour. Et on dit qu'après Kippour, le Midrash, il dit que tellement on est dans un niveau de Teshuvah et tellement on est pressé de faire des mitzvot, qu'on n'a même pas le temps de faire des avirot. Tellement on est pressé pour se préparer à la prochaine fête. Amen. Bien sûr, amen. Non, ça veut dire qu'on est occupé, on n'a pas le temps de... C'est la course. Alors, maintenant, ce qu'on va parler... Évidemment, bien sûr. Évidemment. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein. C'est comme un jugement. Je t'expliquais. C'est comme un jugement. Dans un jugement, même quand c'est déjà validé, tu peux toujours faire appel. Tu fais appel, après à Bruxelles, après à La Haye, après je sais pas où il y a encore qui c'est qui est dans l'endroit. D'accord. Hein? Après c'est fini. Ah, après, ça prend des années, t'as le temps de mourir avant que ça arrive là-bas. Et t'as des gens, ils ont les jugements, ça dure 20 ans, 30 ans. C'est...
Ils sont en hmm? Regarde, Sarkozy, ça fait déjà 6 ou 17 ans.
Tiens, même, bon. Il est mis en examen, là. Pas oui, mis en examen.
Alors, on va continuer.
Hors sujet, hors sujet.
Hors sujet. Alors, mois. En tout cas, ce que je vais expliquer par là, c'est ouais. Quoi? C'est que maintenant, Baruch Hashem, on a déjà passé Yom Kippour, on a la Emouna que Kadosh Baruch Hu nous a déjà pardonné. Ah, bien sûr qu'on va essayer encore de fignoler encore de... On va essayer encore de... d'essayer de... améliorer un petit peu plus pour avoir encore plus.
C'est l'espoir.
Non, non, c'est les deux ensemble. Mais bon, on a quand même l'émouna que tout s'est bien passé pour le prochain. Alors, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est suite à ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé, vous vous rappelez, du jus de Kippour. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué qu'en vérité, qu'est-ce qui fait qu'un juif de Kippour se réveille le jour de Kippour? Qu'est-ce qui fait qu'il se réveille tout d'un coup le jour de Kippour? On a expliqué qu'en vérité, chacun de nous, on a, au fond de nous, un amour caché, bonsoir, on a un amour caché vers un Kadosh Baruch Hu. Et cet amour caché qu'on a expliqué, il est de série. Ça veut dire que je veuille ou que je veuille pas, que je me sens croyant ou je me sens pas croyant, d'accord? Dès qu'arrive le jour du Yom Kippour, par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'on a expliqué? La Neshama se réveille vers un Kadosh Baruch Hu. Vous savez, je me suis amusé après Kippour. Après Kippour, je me suis amusé donc le soir, dans la nuit et après le lendemain aussi, de samedi soir à dimanche.
Excellent.
Et pendant dimanche. Je suis parti sur Twitter. Vous connaissez Twitter, monsieur Benita? Twitter, vous connaissez?
Ah oui, oui.
Voilà, bon. Je suis parti sur Twitter et j'ai tapé le mot-clé Kippour. J'ai tapé le mot-clé. Hashtag Kippour. Kippour. Avec deux P. Yes. Pour voir ce qu'un.
Yes.
D'accord? Yes. D'accord? D'accord? Vous n'avez pas idée le nom. Alors pour voir, vous n'avez pas idée le nombre de choses que j'ai vues là-bas. D'accord? Des gens qui disent. D'accord? Des jeunes, c'est plus surtout des jeunes qui parlent. Je fréquente jamais la synagogue, mais là je suis venu à Kippour. Quelle sensation, les airs, les chansons, je me sens bien. J'ai jamais vu ça. Mais juste, il suffit simplement, vous pouvez faire, hein, vous pouvez aller sur Twitter ce soir là, vous allez, vous faites une recherche, bon, là vous allez avoir des milliers de messages hein, pour revenir jusqu'à ce qu'il y avait. Des milliers, si c'est pas des dizaines de milliers. Et toutes les 2-3 secondes, t'avais hop, ils te mettaient hop, 20 nouveaux tweets. 20 nouveaux... Bon, pour ceux qui connaissent Twitter, ils comprennent de quoi je parle. Alors, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'on sent que même des gens qui sont très loin, on a expliqué la semaine dernière, qu'il y a un amour vers Akadosh Baruch Hu. Cet amour fait qu'à des moments clés, eh ben, cet amour, il fait que cet amour, il se réveille vers Akadosh Baruch Hu. Très bien. Seulement, le problème, c'est que maintenant, on n'est plus à Kippour. Maintenant, on est post-Kippour. Post-Kippour, on est de retour dans la vraie vie. On aurait aimé que l'état dans lequel on se trouvait Kippour ait continué toute l'année. Ça veut dire l'état dans lequel on se trouve, l'état spirituel dans lequel on se trouve, le recueillement. Si vous voulez, de la même manière qu'au mois d'août on part en vacances matériellement, de la même manière, si vous voulez, spirituellement on est parti en vacances pendant Kippour. Après Kippour, on est comme après les vacances. On est spirituellement, on est reposé, on est bien, on a la pêche, on a envie d'avancer. Bon, c'est très bien que ça va pas durer toute l'année. Ça va pas durer toute l'année. Alors pourquoi? C'est pas seulement la question du jeune. Le jeune, c'est une mise en condition. C'est pour nous mettre en condition pour que ça décolle. Et ben au Hachem, ça décolle. Mais le problème, c'est que ça reste pas comme ça toute l'année. Alors la question qu'on se pose, et c'est la question d'aujourd'hui, c'est finalement, c'est la question que plusieurs ont posée, et puis plusieurs cours déjà, pourquoi on n'est pas comme ça toute l'année? Est-ce que quelque part Dieu attend de nous qu'on soit comme ça toute l'année? Est-ce que Dieu... À quoi bon finalement de booster quelqu'un à fond pendant un jour, et hop, après ça retombe? À quoi ça sert? C'est comme quelqu'un, par exemple, il est pauvre, tu vois, tu le fais entrer dans une banque, et tu fais croire qu'il est milliardaire pendant un jour, bah, 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 tu pousses à fond, et après il retourne, et là, ça y est, c'est fini.
Entretenir l'espoir.
À quoi ça sert?
Entretenir l'espoir.
Non, c'est pas ça.
D'accord? Est-ce que c'est pas un peu ça?
Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est pas un peu ça quand tu prends quelqu'un, tu le pousses à bout, mais tu sais très bien qu'il sera jamais comme ça toute l'année? Donc il y a deux questions qu'on se pose.
Ça dépend de ton niveau.
Non, mais...
Deux questions. D'abord, je vais juste expliquer les deux questions, après on va voir les commentaires. Juste deux secondes. Il y a deux problèmes qui nous dérangent. Premièrement, est-ce qu'on attend de moi d'être comme ça toute l'année? Premièrement. Deuxièmement, d'accord? C'est pas seulement ce qu'on attend de moi, est-ce que c'est possible pour moi d'être comme ça toute l'année? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour moi? La réponse à tout ça va être clairement non. On ne peut pas être un juif de qui pour toute l'année. On ne peut pas être avec le même évêque qui pour toute l'année. Alors, dans ce cas-là, c'est là que j'arrive à la deuxième question. Dans ce cas-là, quel est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créé? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi certaines personnes arrivent à être comme ça toute l'année, d'autres n'arrivent pas? Voilà, maintenant je fais une petite pause pour les questions. Parce que vous allez, on va bien expliquer comment Dieu fait les choses, que vraiment les chapitres qu'on étudie, ils ont mamache un rapport. Vous voyez, avant Rosh Hashanah, ça parlait du thème de Rosh Hashanah. Avant Kippour, ça parlait du thème de Kippour. Je fais pas exprès, hein, c'est vraiment les thèmes. Là, on est post-Kippour. Post-Kippour, c'est-à-dire qu'on doit prendre des conclusions, et on doit se poser la question où j'en suis dans tout ça. Alors, il y avait des commentaires, allez-y.
Non, mais parce que peut-être dans Kippour, on est dans une position telle que Hachem, il espère que la condition dans laquelle on s'est trouvé, ça va nous pousser à nous améliorer, peut-être pas toute l'année, mais au moins si on le fait 2 mois, 3 mois dans l'année ou 4 mois.
Vous êtes optimiste, vous, 2 mois, 3 mois.
Ben c'est déjà bien. Hein. C'est mieux que 0 année. Hein.
Est-ce que vous vous sentez différent avant Kippour et après Kippour?
Différent, non.
Non,
on est le même.
Alors, à quoi ça sert, alors?
Pendant, vous êtes différent.
Pardon?
Non, pas pendant. Pendant, bien sûr qu'on est différent.
Ben, pendant, oui. Bon, parce qu'il y a l'ambiance, il y a l'environnement, il y a la sonalité, il y a tout ce folklore qu'il y a autour. Bon, forcément.
S'il n'y avait pas des moments où on est...
Est-ce que j'ai compris? Oui, vas-y, pardon, Avenir. Vas-y,
je sais. Si on était toute l'année comme Kippour, il n'y aurait pas de Kippour. Enfin, on serait le... C'est-à-dire que comment tu veux qu'un moment où on soit un peu spirituellement.
On a expliqué la semaine dernière que Kippour, les gens traduisent Kippour par le pardon. Alors qu'en vérité, Kippour, c'est pas le pardon. C'est aussi le pardon. Mais c'est surtout un moment de grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ma question que je pose ici, c'est est-ce que cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, est-ce que finalement on devrait pas l'avoir toute l'année? Alors la réponse, c'est clairement non. Ni on doit l'avoir, et ni on peut l'avoir. Il y a que des gens comme les tzadikim, et c'est ça le thème d'aujourd'hui. Des gens comme des tzadikim qui, eux, arrivent à se sentir comme nous, on s'est senti à Kippour. Eux, ils se sentent comme ça toute l'année. Donc là, je pose la question.
Et comment?
Comment on s'est senti? Tu sens que t'es ailleurs. C'est-à-dire, tu sens que le matériel te dérange moins. C'est pour ça qu'on mange pas. Voilà. Donc tu sens, si tu veux, que le matériel...
Normalement, t'es à la semaine.
Shabbat, si tu veux, toute l'année, on a beaucoup de parasites qui nous dérangent.
Shabbat,
à Kippour, on a supprimé un maximum de parasites. Ça n'a rien à voir avec Kippour.
Tu passes beaucoup de temps dans la matérialité. Même manger, c'est de la matérialité.
Bien sûr. Enfin,
tu passes beaucoup de temps à table.
Tu manges, tu dors, tu bois. D'accord.
Tu parles beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport avec la...
Ok, alors Rosh Hashanah.
Même Rosh Hashanah, c'est pas comme Kippour. C'est vrai que Rosh Hashanah, c'est un bon début, mais c'est pas comme Kippour. Si tu veux Kippour, on a supprimé au maximum les parasites pour avoir une relation avec Dieu la plus spirituelle et la plus pure possible. On est d'accord?
Alors, la question. Mais il y a d'autres périodes de l'année aussi où on fait le jeûne. Et pourtant, cette proximité.
C'est jamais aussi fort que Kippour, parce que Kippour, on s'est préparé pendant 40 jours avant.
Puis les autres jeunes, on travaille.
D'accord. Bah, les autres jours aussi, on s'est préparé.
Et les jeunes, on travaille.
Aujourd'hui, je sais à quel point.
Oui, mais là, je me prépare. On a fait les stichot, on s'est préparé. Il y a eu le mois d'Eloul. Ça veut dire qu'on s'est préparé, c'est pas venu comme ça. Alors, juste, je veux pas qu'on perde le fil. D'accord? Ce qu'il explique ici, c'est quelque chose de très important. Il te dit que, en vérité, quelqu'un de standard dans le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là toute l'année. C'est seulement des gens comme les tzadikim qui ont le mérite de se sentir comme nous on s'est senti à Kippour. Ça veut dire de se sentir, de voir tout de suite où est la vérité. Vous savez, à Kippour, on a un indicateur, on voit où est la vérité. On voit tout de suite qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Toute l'année, on n'est pas forcément comme ça. Toute l'année, on va accorder de l'importance à des choses qui sont peut-être moins importantes. Donc, les tzadikim, eux, arrivent à être comme ça toute l'année. Pourquoi nous, on n'est pas comme ça? C'est là la réponse qu'il va donner ici. Une réponse très importante. Parce que, écoute, ce cours-là, il ne faut vraiment pas le rater. Parce que ce cours-là, c'est une introduction, en fait, qui va nous permettre de comprendre comment ça se fait que dans le monde, il y a différentes catégories de personnes. Il y a des gens qui servent Dieu plus facilement que d'autres. Il y a des gens qui sont tzadikim. Il y a des gens qui ne sont pas tzadikim. Et qui ne sont pas conçus pour être tzadikim. C'est une question que plusieurs ont posée, qui a dérangé depuis plusieurs cours déjà. Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Ve'alze amru, rabotenu zichronam livracha. Sur ce niveau-là, qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est-à-dire le niveau dans lequel on sent l'amour qui n'est plus caché, donc qui est dévoilé derrière Kadosh Baruch Hu, bonsoir. Sur ça, amru, rabotenu zichronam livracha. Sur ça, les chachamim ont dit, olamcha tir'e bechayecha. Alors je traduis.
Ton monde,
tu verras de ton vivant. Quand on dit ton monde, c'est quoi ton monde?
Ben, c'est celui.
Qu'est-ce qui m'appartient? D'accord? Qu'est-ce qui m'appartient? Vous croyez que mon appartement m'appartient, même si je l'ai acheté? D'accord ? Ça m'appartient pas, ça. Quand je vais aller dans la tombe, qu'est-ce que je vais emporter mon appartement avec moi ? Rien du tout.
Ouais, mais enfin.
D'accord ? J'ai une maison, t'as acheté 10 maisons, t'as acheté 15 maisons. C'est quoi mon monde ? Mon monde, c'est quelque chose, bonsoir, c'est quelque chose que je vais garder et qui bougera pas dans le temps.
Donc, bon, là, on est dans
de quoi on parle ? On parle
évidemment.
Du monde futur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit comme ça ? Normalement, le monde futur, on le voit pas du vivant, de notre vivant ici-bas. Ça veut dire, tant que je suis en bas, je suis en bas, je vois pas ce qui se passe en haut. Je travaille, mais je vois pas directement les retombées de ce qui se passe en haut. À certains moments dans l'année, comme Kippour, j'ai une sensation du spirituel, mais après, walou, c'est fini. D'accord ? Et après 120 ans, quand on parle de ce monde, là, on dit, c'est là que tu vas voir ton monde et tu vas voir vraiment ce que tu as construit. Il y a certaines personnes, dont les tzadikim, et pas que les tzadikim, il y a certaines personnes qui ont le mérite de olamcha tir'e bechayecha. Que pendant leur vie,
ils verront le futur.
Ils arrivent à voir pas le futur, mais ils arrivent à voir leur monde futur. Ça veut dire qu'ils arrivent à avoir des repères. Ils arrivent à ressentir le spirituel. Ils arrivent à ressentir comment le spirituel qu'ils ont fait dans leur vie, c'est ça le plus important. C'est un niveau qui est donné à très peu de personnes. La Gemara Brachot en parle dans la page 17.
D'accord.
Attendez, monsieur Vinita.
Oh, regarde.
Alors. La Gemara Brachot, dans la page 17, elle dit qu'il y a très peu de gens dans le monde, même parmi les tzadikim, qui ont le mérite de voir le monde futur dans ce monde-ci. Qui ont le mérite de voir, de ressentir la spiritualité dans ce monde-ci. Parce que naturellement, dans ce monde-ci, on sent pas le spirituel, on sent le matériel. On fait le spirituel parce qu'il faut le faire, mais tu sens pas le spirituel. Il y a très peu de gens qui arrivent à avoir cette sensation-là. Donc c'est très important ce qu'il dit ici. Finalement, qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit que si on est comme 99,9% des gens, on n'est pas capable, on est vraiment incapable de sentir le spirituel. C'est incapable. Sauf à certains moments clés de l'année, comme Kippour, etc. Mais après, sinon, on est impossible. C'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il te dit ici, « Ve'en kaladam zochelazé ». Pas tout le monde ne mérite ça, ce niveau-là. C'est-à-dire de sentir le spirituel. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui faisait pas Shabbat et gagnait très très bien sa vie. Il fait Shabbat. Ok ? On lui dit, tu vas faire Shabbat, Dieu il va t'envoyer la bénédiction. D'accord ? Il gagne moins d'argent depuis qu'il fait Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est un jour où il gagnait bien et il a un jour d'entrée en moins. Et ce jour-là, il vaut un coefficient, d'accord ? Fois 4 fois 5. D'accord ? Donc il gagne moins d'argent. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va penser une personne comme ça ? Qu'est-ce qu'il pense ? Alors bon. Il va se dire, c'est vrai que matériellement je comprends pas, mais il va se dire, spirituellement, je sais que c'est la mitzvah, voilà, c'est la bonne chose à faire, etc. Il va se dire au niveau de spirituel. Mais est-ce qu'on peut dire que spirituellement, il va comprendre ça aussi bien qu'il comprend matériellement?
Non.
Matériellement, c'est du cash. Le cash, il le voit. Spirituellement, bon, c'est la Emouna qu'il a, mais on peut pas dire qu'il le voit devant lui, le spirituel.
Il va le comprendre.
Oui, il va le comprendre.
Bah oui.
Mais tu peux pas dire qu'il le ressent comme le matériel. Qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez bien ce qu'il dit ici.
Le matériel, il est vivant.
Je dis pas que ça nous arrive pas, ça nous arrive. Mais je dis c'est plus rare.
Quand il a décidé de faire Shabbat, il savait qu'il allait perdre. Donc
j'arrive au bout du raisonnement.
Concrètement, il comprend.
J'arrive au bout du raisonnement. Qui zéou ke'en kiboul sachar. En fait, c'est comme un salaire d'Akadosh Baruch Hu. Que de temps en temps, Dieu veut te donner un salaire sur ce que tu as fait. Le vrai salaire, c'est en haut. Mais de temps en temps, pour te faire kiffer, Dieu te donne un salaire que ici-bas, il t'ouvre les yeux pour que tu te rendes compte que tu es dans le bon chemin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que...
C'est un aperçu.
Exactement, c'est un aperçu qui te donne. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans lesquels c'est pas que je vais mieux. C'est que Dieu, il m'ouvre les yeux et j'ai tout d'un coup la clarté devant mes yeux et je me dis, tiens, c'est vrai la vérité, c'est vrai, c'est bien ce que je fais. Le chemin que j'ai pris est un bon chemin. C'est une clarté que Dieu te donne. Maintenant, Dieu, il nous la donne des fois pour quelques instants. Là, par exemple, à Kippour, on l'a eu, tu vois, tu sens la clarté, t'as la fierté d'être juif, t'es content d'être juif, t'es content d'avancer dans les mitzvot. Il te donne cette clarté-là. Après, ça part. T'as des gens qui font tchouva, comme tu as dit Marcel, qui ont ça pendant quelques temps. Tu comprends? Pendant quelques temps, ils sont dans la lumière, ils voient. Mais, concrètement, la majorité des gens qui sont comme nous, ne voient pas ça dans la suite. C'est-à-dire qu'ils ne sentent plus ça après. Après, le matériel, on connaît, le spirituel, on connaît pas, on le fait parce qu'il faut le faire et c'est tout, on pose pas de questions. Il y a des gens comme les tzadikim qui ont ce salaire, qui ont ce srar, qui ont ce mérite, de voir leur monde futur dans ce monde-ci. C'est un srar, ça c'est un salaire. D'ailleurs, on voit que, et même par exemple, on voit que Yaakov Avinu, quand il a commencé, Dieu lui a envoyé des souffrances dans ce monde-ci. Son fils Yosef a disparu, il a souffert en Égypte. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, d'avoir la tranquillité. Quand il veut la tranquillité, ça veut dire quoi ? D'abord, il veut qu'on le laisse tranquille et il veut aussi dans sa tête être tranquille. Parce que la tranquillité, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. La tranquillité, c'est être zen dans la tête. Et il n'était pas zen. Il n'arrivait pas à être zen. Qu'est-ce que lui a répondu Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça te suffit pas ce que je t'ai prévu en haut, tu veux ici en bas aussi ? Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que même chez les tzadikim, ce niveau-là d'être zen et de voir son monde dans ce monde-ci, c'est donné à très très peu de personnes. C'est pas forcément les tzadikim. C'est un cadeau que Dieu donne. Des fois il donne, des fois il donne pas. Alors ici, il emploie deux termes. C'est ça ce qui est intéressant. Il emploie un terme sachar. Sachar, c'est un salaire. C'est-à-dire que Dieu te donne une avance de ton salaire. Mais il emploie juste après une autre définition qui est cadeau. C'est un cadeau. Ça peut être un cadeau que Dieu te fait. Ça veut dire, si ça nous arrive des fois de temps en temps que tu te sens bien, bah, tu te lèves un matin, tu te sens bien, tu dis, ah, je suis content d'être juif. Ça vous arrive des fois, tu te lèves le matin comme ça, oui. T'es bien, t'es bien. Tu te lèves le matin, mais tu te sens spécialement bien. Tu te dis, ah,
des matins, tu te réveilles et tu dis, excusez-moi, mais tu dis, c'est quoi ce truc de merde? On est chassés partout, on est matin.
Ah ouais.
Pourquoi j'ai choisi le mauvais numéro?
Oui, c'est comme mon fils, il a posé la question, ça fait quelques jours. Il m'a dit, mais papa, l'égoïme, il nous aime pas?
Ben non, il nous aime pas.
C'est la question d'un enfant, tu vois. Ouais,
ouais. Alors, hein,
hein, c'est compliqué. D'abord, il comprend pas ce qu'il y a des ennemis. Il me dit, mais pourquoi les soldats de Tzal, ils viennent pas ici? Enfin, c'est un peu flou pour lui. Il voit des ennemis. Enfin, parce qu'il entend les gens parler. Les gens, ils parlent. Il entend. Ouais. On parle pas à la maison, mais il entend les gens parler. Mmh. Il entend les gens parler de ça, des problèmes en France, des problèmes ici, des problèmes là-bas, des gens qui partent. Et un enfant, il réfléchit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que, Normalement, au bout du compte, des gens comme nous, on n'a pas cette possibilité de voir la clarté dans ce monde-ci. De comprendre, de voir clairement où on va, et d'être sûr qu'on est dans le bon chemin, et de ressentir comme quelque chose de matériel. Tu te lances dans une affaire, tu gagnes, tu vois tout de suite. Il n'y a pas, peut-être je gagne pas. C'est clair. Je gagne, je gagne pas. Si je vois que je gagne pas. Dans le spirituel, c'est beaucoup plus flou. Certaines personnes, à certains moments, Dieu donne le mérite. Alors, soit c'est un salaire, soit c'est un cadeau, de voir, d'accord, de ressentir un petit peu le spirituel. Les tzadikim sont comme ça tout le temps. Pratiquement tout le temps. Nous, on n'est pas comme ça.
Tu veux dire,
ça veut dire de ressentir une clarté dans le spirituel comme nous on a pour le matériel. Ça veut dire d'avoir un repère très très clair et de voir que le spirituel c'est l'essentiel.
Parce qu'ils sont conditionnés là-dedans.
Non.
C'est comme je pense des fois, même si on fait que des bonnes actions. On se dit,
on a bonne conscience.
On peut se dire, on va voir ce qui va se passer. Enfin, moi, j'y crois, mais on veut pas voir ce qui va se passer dans un monde futur. Pourquoi? Parce que quand on met dans la balance, comme on dit en arabe, Rabbi Hashbek, c'est Dieu qui fera tes comptes. Quand on met dans la balance tous les péchés qu'on a fait, la balance,
c'est génial.
Donc, on veut pas voir
une citation de sans rentrer dedans. Attendez.
Voilà.
Je veux pas rentrer dedans. Moi, ce que j'ai, j'ai très bien compris ce que vous voulez dire.
Voilà. On n'a rien inventé.
D'accord. Sans rentrer dedans.
C'est la vérité.
Je parle de la notion de, par exemple, récemment, je parlais avec des jeunes. D'accord. Je leur disais, qu'est-ce que vous pensez du Shabbat? Est-ce que le Shabbat c'est bien ou c'est pas bien? Alors, il y a des gens qui m'ont répondu comme ça plusieurs. Il y en a qui m'ont dit. Ils m'ont dit, des fois, ça nous prend la tête. On attend, on n'a qu'une seule hâte, c'est que ça sorte, pour aller voir Facebook, je sais pas quoi, les bêtises, d'accord? Ouais. D'accord? Et même des fois, ils craquent et ils prennent leur téléphone. Mais des fois, ça leur arrive, des fois, ils kiffent. Tu vois, ils sont là, ils kiffent la famille, le table de Shabbat, la finale, etc. Mais ça dépend, c'est aléatoire. Oui, qu'est-ce qui fait que des fois, tu sens que t'es dedans, des fois, tu sens que t'es pas dedans?
On a des moments de révolte. Moi, quand il y a eu les trois petits jeunes qui se sont fait assassiner, sincèrement, j'ai blasphémé.
Alors, ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
J'ai dit, pourquoi je suis juif? Pourquoi ils sont nés juifs? Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être juifs?
Il y a un truc aussi sur le Shabbat qui est lié à la galoute, moi, je trouve.
C'est peut-être une réaction normale.
Mon cousin, il est rave. Sa propre femme, quand elle est revenue ici, ils ont vécu 5 ans en Israël. Maintenant, ils sont partis du coup.
Oui.
Mais elle disait que le Shabbat, elle avait du mal à kiffer son Shabbat.
Parce
que ça finit à 11h. Parce qu'elle se sent enfermée en prison. Elle ne peut pas sortir avec les enfants avec la poussette. Parce qu'on
ne
peut pas aller les uns chez les autres. Du coup, on vit enfermé chez soi.
Je comprends.
Donc, il y a un côté aussi qui est lié à la galoute. Parce que le Shabbat, c'est pas ça. Le Shabbat, c'est justement d'être en famille, qu'on partage.
Mais il y a cette capacité que même quand tu galères, je vais entendre la question qu'il pose. Il y a cette capacité que des fois, même quand tu galères, comme tu sens que tu es en bonne voie, tu sens que ça marche, t'es content. C'est comme dans une affaire.
Absolument.
Tu commences une affaire, tu sens que ça marche, mais bon, tu gagnes pas encore des sous parce que bon, concrètement, il faut prendre quelques mois, quelques années. Mais comme tu sens que c'est toujours la bonne voie, t'as la pêche, t'es content de le faire. Alors dans le spirituel, est-ce que c'est comme ça? Pas forcément. Quand on a pris Kippour, oui. Mais combien de temps ça va durer, ça, que t'as la pêche et tu sens que t'es dans la bonne voie? Ça va pas durer très longtemps, ça. Il y a des gens qui sont comme ça toute l'année. parce que c'est un cadeau que Dieu leur a donné. Mais ce qu'il dit ici, c'est que ça, c'est pas un but d'être comme ça. Enfin, Dieu n'attend pas de nous d'être comme ça toute l'année, et c'est pas pour ça qu'on a été créé. Parce que quelque part, la majorité des gens n'ont pas été créés pour être comme ça, pour avoir cette pêche et pour être comme ça toute l'année avec cette pêche-là. Au contraire, c'est ce qu'il expliqué dans la Suisse. Dieu nous a créés, d'accord ? Dieu nous a créés avec une nature certaine, comme nous, d'accord, 99,9% des gens, une nature qu'on doit constamment se battre avec son Yetzirara. Maintenant, on va revenir à quelque chose d'important. D'accord, justement. En vérité, la question que vous posez, c'est la question de Iov, Job. Job a posé cette question-là. Job a posé cette question. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Barata tzadikim, barata reshaim. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Ça, il a dit. Alors, on avait posé la question au premier chapitre, on avait dit, mais comment il peut dire il a créé, que Dieu a créé les tzadikim? Je deviens tzadik si je me comporte bien. Je deviens racha si je me comporte mal. Est-ce qu'on peut dire que Dieu crée un tzadik? Dieu ne crée pas de tzadik. C'est quoi la réponse à ce qu'on a ici? Bien sûr que Job avait raison. Parce que Job, vous savez, il se plaignait un peu de tout. Il y en a qui disent que Job aussi, c'est en théorie, ça n'a jamais existé. C'est un personnage qui n'a jamais existé. Mais en tout cas, Job, si vous voulez, il montrait toutes les failles de l'humanité. Et là, en vérité, Job, il pointe une des failles de l'humanité. C'est quoi une des failles de l'humanité? C'est qu'il y a des gens, directement, ils sont dans le coup. Ça veut dire directement, il ouvre le livre, pac, il est dedans. C'est-à-dire, Dieu, il a créé de sadique. Tu vois, le bonhomme, il est là, il se sent sur une chaise, il peut rester 15 heures, il est là. D'accord. Il a créé. Attendez, il a créé comme un tzaddik. Alors que il y a des gens.
C'est l'image. C'est une image ou c'est le nom de sa
nation? Non. Ça c'est la question de Job. Job il pose une question. Il dit comme ça. Il parle à Dieu parce que Job il dit voilà. Il dit Dieu c'est trop facile. C'est trop facile. Il y a des gens que tu as créés tzaddikim. C'est pas que tu les as créés tzaddikim, mais tu les as pratiquement conditionnés. Quand une personne dès le départ il vient, il se lance en spirituel, il sent qu'il est dans le coup. Il sent qu'il gagne. Évidemment qu'il continue, évidemment qu'il a envie de se lever tous les matins, évidemment qu'il a envie de, il a envie d'avancer, il a envie de percer. D'accord? Par contre, quand il est pas comme ça, quand tu l'as créé rachat, c'est pas qu'il est rachat, tu l'as pas créé rachat, parce que bon, on va pas dire que tu l'as créé rachat. Mais tu l'as créé une situation que les bonhommes sont centre d'intérêt et c'est les bêtises. Et quand la Torah, bon, ça lui prend la tête. Évidemment qu'il va fauter. Ça, c'est la question de Job. Job, il dit, c'est pas équitable ton monde. Dieu n'a pas répondu à cette question. Dieu n'a pas répondu à la question de Job. Parce que Job, c'est des questions ouvertes. Pourquoi il a pas répondu? Parce qu'on va expliquer dans la suite. En vérité, c'est ça le thème de ce qu'on va faire dans la suite, que Kadosh Baruch Hu, en vérité, il y a deux vecteurs dans le monde. Il y a le vecteur des tzadikim et le vecteur des autres. Le vecteur des tzadikim qui sont là pour faire du chiffre, c'est-à-dire qui sont là pour avancer, et le vecteur des autres qui sont pas là pour faire du chiffre. Et ça, on en avait parlé, ça fait quelques semaines. Ceux qui sont pas tzadikim, ils sont pas là pour faire du chiffre. Ils sont là pour se battre avec le Yetzarara. Chaque fois qu'ils vont se battre avec le Yetzarara, ils vont faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ils vont pas faire du chiffre. Ça veut dire que si on analyse qu'est-ce qu'on a avancé d'un kippour à l'autre, entre toutes les fois qu'on est monté, qu'on est descendu, on n'a pas beaucoup avancé. On est déjà content si on est resté comme avant. Et si on avance un petit peu, on est encore plus content. C'est déjà très très bien. Alors tu dis, mais à quoi ça sert? C'est une perte, ton affaire. C'est une affaire, il faut fermer la boutique si ça marche pas comme ça. Dans une affaire, il faut que ça marche. On n'est pas dans une affaire qui est là pour faire du chiffre. On est là dans une affaire qui est là parce qu'on doit être là et on doit essayer de la faire tenir un maximum de temps. Parce que c'est ce que Dieu il veut. Le patron, il a dit, il faut la faire tenir l'affaire. C'est comme ça. Mais là, il te dit les tzadikim, il te dit ne te prends pas pour un tzadik. Lui, un tzadik, il kiffe. Il kiffe constamment. Il sait pas ce que c'est ne pas kiffer. Pour lui, constamment, il se lève le matin, il kiffe. Maintenant, il peut galérer matériellement. Il peut ne pas avoir à manger, il kiffe. Il est en plein kiff. Il est sûr qu'il est dans le bon chemin. Quand t'es comme ça, c'est différent. C'est pas la même chose.
On est là pour tenir la boutique, quoi.
Nous, on est là pour tenir la boutique. C'est pas mal, c'est déjà pas mal.
Le matin, en plein le soir.
C'est exactement la même chose, comme le chercheur ou comme quelqu'un qui fait un travail. Mais choisissez un travail qui vous plaît et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, Confucius. C'est exactement ça.
Mais là, c'est pas un travail qui me plaît.
Bah si, non. Si, le haram, il fait pas.
Le haram, voilà. Le haram, ça lui plaît.
Je parle du haram.
Ah, du haram, bien sûr. Le haram, il est en plein dedans.
Alors, il a aucun mérite.
Il baigne dedans. Évidemment qu'il va faire.
Mais c'est normal qu'il excelle là-dedans.
Bien sûr, c'est normal qu'il excelle.
Ben voilà.
Ah, mais il est né premier de la classe. Il vient et hop, il plonge dedans, il est dedans.
Mais il pourrait exceller dans les bêtises aussi. Quelqu'un qui est brillant, il est brillant.
Oui, non, je suis pas d'accord, excuse-moi. Parce que non, il y a des gens qui, naturellement, ils sont raffinés. Ils ont le sens du spirituel. Ils ont un sens spirituel, il faut capter. Alors, ça veut dire que ils ont le sens de capter les choses spirituelles, être attirés vers les choses spirituelles, être attirés vers les choses raffinées. Et les bêtises, ça les intéresse pas trop.
Oui,
ils doivent se forcer à faire la bêtise.
Parce que il y a aussi le côté valeur quand tu fais des études rôles. Exemple, quelqu'un qui est brillant,
oui.
Il est religieux. Je parle pas de quelqu'un, il est religieux, tout ce que tu veux. Mais par exemple, il va se lancer dans des études de médecine et on va lui dire quoi? On va pas lui dire ah t'es religieux, t'es bien. On va lui dire ah t'es médecin, t'es bien. C'est ça le monde de Rojo aujourd'hui. Donc du coup, il peut se sentir flatté du fait qu'il soit brillant, mais il peut être plus flatté du fait qu'il soit médecin qu'il soit froum.
J'ai compris. Mais là, je parle. En vérité,
donc il aurait pu se tourner beaucoup plus, aller vers la médecine pour être un grand chercheur ou un grand professeur, ce qu'il veut, alors qu'il préfère dire non, moi je serai un médecin.
Tu as remarqué que je n'ai pas parlé d'un chacham. Parce qu'on peut avoir un tzaddik qui n'est pas chacham. On a eu beaucoup des gens dans l'histoire comme ça. Des gens qui étaient tzaddikim.
Alors, quelle différence vous faites entre tzaddik et chacham?
Ça n'a rien à voir.
Un
chacham,
c'est quelqu'un qui est pur.
C'est quelqu'un qui est brillant. Maintenant, il peut être brillant, mais faire plein de bêtises. Et que tu sais même pas. Il est brillant intellectuellement.
C'est tzaddik,
ça, c'est un chacham, ça. Chacham. Un tzaddik, il n'est pas spécialement brillant. Il n'est pas... peut-être il est aussi brillant, pourquoi pas. Mais il est pur. Il a une pureté. Il a une pureté qui fait qu'il a le sens du spirituel.
Il peut être simplet et tzaddik.
Est-ce qu'on est
racham? Il y a des gens qui peuvent naître avec des facultés intellectuelles plus développées que d'autres, certainement.
Donc là, d'accord, tu parles de tel.
Oui, mais le tzaddik, c'est un sens, d'accord. Soit on l'a, soit on l'a pas. Vous savez qu'en vérité, quand on lit par exemple qu'un tzaddik a la prophétie, Maïmonide explique comment ça se passe la prophétie. Il dit en vérité, autour de nous, on a plein d'images. On a des images, il y a des choses qui se passent autour de nous. Il y a des choses là, dans la salle, il y a des choses qui se passent. Seulement, nous, comme on est dans le monde matériel, comme on est matérialiste et on est dans le monde matériel, on n'arrive pas à capter ces ondes. Plus tu deviens spirituel et plus tu arrives à capter des choses. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il me parle, par exemple. Il est en train de me parler. Si je suis matériel, je vais me concentrer sur les mots qu'il me dit. Mais si j'apprends à faire attention, j'apprends à faire attention aux détails, je vais remarquer comment il me parle, comment il a bougé ses mains, comment il a bougé sa tête, l'expression de son visage, la mimique. D'accord? C'est-à-dire que je vais faire attention à tout ça. Des détails qui sont très importants, que je n'aurais pas forcément à faire attention. D'accord? C'est un exemple que je vous donne. C'est la même chose. Autour de nous, il y a plein de messages. Partout, il y a des messages. Seulement, on n'arrive pas à les capter parce qu'on n'est pas conçu pour. On n'arrive pas à le faire. T'as des gens qui sont tzadikim, c'est des gens qui, dès le départ, ils ont ce sens-là. Ils ont cette capacité de capter ces choses-là.
Il y en a qui le font.
Tu comprends qu'une personne comme ça, une personne comme ça, quand il fait une avéra, il est dérangé pendant 3 semaines. Ça le dérange, ça le travaille parce qu'il sent que c'est très grave ce qu'il a fait. Évidemment qu'une personne comme ça, il va voter beaucoup.
On peut capter tout ce que vous venez de dire.
On peut.
Sans être tzaddik ou haram. Ceux qui font la psychomorphologie.
C'est un exemple que je donnais. Je parle pas de psychomorphologie.
Oui, mais justement, mais avec ça, on peut détecter.
C'est pas de ça que je parle. Je parle du spirituel.
Il y a des tzaddik qui ressentent les choses avant.
Ils sentent les choses. Ils sentent les choses arriver. Comment ils sentent?
Du matin jusqu'au soir.
C'est pas forcément que Dieu leur a parlé. C'est ça ce que je vais expliquer.
Par
exemple, je vais voir un tzaddik. Le tzaddik qui me dit tac, 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 tac. Voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. D'où il sait le tzaddik? Vous croyez qu'il y a une voix dans le ciel qui lui a parlé à ce moment-là et qui lui a dit attention, il est venu te voir. Hop, Mendy Assouline, tac, 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 tac. Vous croyez que c'est passé comme ça? Ça s'est pas passé comme ça du tout. Moi, je pense pas que c'est passé comme ça. Moi, je pense que le tzaddik, quand il vous voit, il vous voit derrière votre enveloppe charnelle, derrière votre corps. Il voit votre spirituel. Donc, il voit ce qui ne va pas. Juste en vous regardant, il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il n'a pas besoin que Dieu lui parle.
Je regarde votre main, je vais vous dire tout.
Allez-y.
Allez-y. Ah ouais.
À quoi je viens de penser il y a 5 minutes?
Qu'est-ce
que je pense de Monsieur Benita?
Vous avez été malade étant jeune.
Qu'est-ce que je pense de Monsieur Benita?
Vous allez faire un voyage là bientôt. Hein.
À New York. Bravo.
On a une voyante avec nous.
Non, je suis d'accord avec. Non, je peux dire à Mendy que.
Dites-le.
Mais les tzadikim, ils sentent.
Vous avez une objection.
Ils sentent beaucoup de choses.
Ouais.
Et c'est vrai que.
Ils captent des choses.
Ils ont
une sensibilité qu'on ne
voit pas. Où on avait de grands tzadikim et qui ont capté les choses. Et une petite anecdote de Tunisie, on avait l'avant-dernier grand rabbin de Tunisie, Rabbi Haïm Belaïch. Un jour, il faisait froid, il est rentré, il a dormi de bonne heure. Et à sa porte, vers 10h du soir, la porte tape à la porte, et c'était une femme, elle a dit « Je vais parler au grand rabbin. J'ai quelque chose d'important à lui dire. » Et sa femme, il a dit « Il est fatigué, il a eu une journée très dure et tout, il fait froid. Laisse-le dormir. » Elle ne l'a pas réveillé. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, il a dit « J'ai écouté, frappé à la porte, et qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui a dit « Non, c'est une femme qui est venue et voulait te parler en pleine nuit, et j'ai pas voulu te réveiller, j'ai pas voulu te... » Il a senti que cette femme, et ça s'est avéré exact, qu'elle avait un besoin de lui parler de quelque chose de très important. Et bien, parce qu'il s'est pas réveillé, il s'est donné la punition pendant tout l'hiver de dormir par terre. Il a dit à sa femme, eh ben, tu m'as pas réveillé, eh ben, tout l'hiver, je dormirai pas dans mon lit, je dormirai par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intelligence de sentir que cette femme, elle n'est pas venue à 10h du soir pour lui dire, tu peux me payer le couscous pour vendredi, elle est venue pour quelque chose d'important, quoi.
Donc ça, ça veut dire que sa sensibilité l'a dérangé.
Voilà, sa sensibilité l'a
évidemment,
dérangé.
Évidemment. Donc, ça, c'est ce que Iyov est en train de dire.
Mais ça s'est avéré que c'était quelque chose de très grave, tu vois.
Mais en fait, le but du cours d'aujourd'hui, c'est surtout de nous rassurer. De nous dire que. Voilà, non, c'est vrai, c'est de nous rassurer. De nous, qu'on comprenne. Non, mais qu'on comprenne que. C'est pas notre but dans la vie, qu'on n'est pas né comme ça et qu'on sera jamais comme ça. Ça sert à rien de viser quelque chose qu'on n'arrivera pas.
Oui, parce que ce sont des gens qui sont nés avec ce sens.
Voilà.
Avec
ce... C'est des gens qui ont. Et c'est des gens qui ont un autre.
Non, ils ont développé cette.
Ils ont une autre, c'est un autre travail ce qu'ils ont. C'est un autre travail.
Non, je pense qu'ils sont nés avec.
Ils sont pas nés avec. Non, non.
Si, ils naissent avec une sensibilité. Bien sûr, évidemment. Évidemment.
Ouais.
Monsieur Benita, Monsieur Benita, imaginez quelqu'un qui n'a pas de goût. Il n'a pas de goût. Il n'a pas de goût dans les couleurs, dans la déco. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui enseigner le goût?
Non.
Est-ce que vous pensez pas. Peut-être.
Non, répondez à la question, oui ou non.
Oui, on peut lui enseigner.
Oui, on peut lui enseigner.
Bien sûr, on peut.
Est-ce que vous pensez...
Alors, moi, j'ai jamais fait les mathématiques, on m'a enseigné.
Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir.
On ne
fait
pas d'un âne un cheval de course.
Eh ben.
Alors, moi, je vais vous dire. Il y a un proverbe racidique qui dit. D'accord. Il y a un proverbe racidique qui dit. Alors, je vais vous le dire en yiddish, mais vous comprenez un peu l'allemand, donc vous allez peut-être comprendre. A kop ken men nicht aufstellen. Ça veut dire une tête, on peut pas l'installer. Ça veut dire, soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le bonhomme, il n'a pas de goût, c'est mort, c'est fini, il va chercher autre chose.
Moi,
t'as pas ton temps.
Dans l'imprimerie, j'ai vu des...
Tu vois, les gens, ils se lancent dans des affaires, c'est pas fait pour lui. Tu dis, mais t'es pas fait pour ça, arrête, tu perds ton temps.
Moi, j'ai vu dans
autre chose.
Parce qu'on lui a pas appris, on l'a pas entraîné.
Non, parce que non. Il y a des choses pour lesquelles je suis doué, et des choses pour lesquelles je suis pas doué. Pas pour moi.
Il y a des types, ils sont pas commerçants. Moi, j'ai un oncle, mon grand-père lui dit toujours, toi, tu vendrais pas une bouteille d'eau à un mec dans le désert. Il est informaticien, le type, c'est, il est devant un ordinateur,
il peut faire, il peut se débrouiller. On dit pas qu'il va pas se débrouiller, mais il est pas fait pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va expliquer par ça? Ça, on a expliqué, Rabotaï. Allez. On a expliqué que ça, c'est la plainte de Job. Iyov, qu'est-ce qu'il a dit? Velachen, alors, on est à la page
197.
Allez, Rabotaï, je vais accélérer un petit peu parce que là,
ouais, on avance pas.
On va avancer un petit peu parce que j'ai fait à l'oral, hein, beaucoup. Au Kedirtiv, comme c'est écrit, en bas de la page 197. Au Kedirtiv.
Ah oui,
Avodat Matana Eten et Keunatrem.
Ah, il a un cadeau, là.
Ce mérite de pouvoir, bonsoir, ressentir le spirituel, de pouvoir sentir, d'accord, que je suis dans la bonne voie, c'est soit un salaire que Dieu me donne dans ce monde-ci, comme dit la Gemara Brachot, soit un cadeau que Dieu me donne pour me booster un petit peu. Comment Shenitber, comme après, comme on s'est expliqué ailleurs.
Mais on sait pas comment.
Velachen Amariyov, voilà pourquoi Job a dit, Barat et Tzadikim Roulé. Voilà pourquoi Job a dit, qu'est-ce qu'a dit Job? Il a dit, Dieu, tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaim. Il voulait pas dire, tu as créé des gens bien. D'accord? Il voulait pas dire, tu as créé des gens bien, tu as créé des gens mauvais. Parce que, évidemment, on ne pense pas que tout est prédéterminé. Sinon, c'est très grave de parler comme ça. Si on pense que tout est prédéterminé, c'est très grave. Mais vous comprenez que lorsqu'une personne est née dans une famille ratée, et qu'il est dans un quartier de raté, et qu'il est dans une école de raté, d'accord, et qu'il a fréquenté que des voyous, d'accord. Le bonhomme, combien de chances il a de réussir? Non mais ça, combien de chances il a de réussir?
Zéro.
D'accord, zéro. Ah bien sûr, on pourra. Hein.
Mais la probabilité,
il a zéro chance de réussir.
Il a toutes les chances.
D'accord.
Il a toutes les chances.
Bien sûr qu'il peut réussir.
Dans la merde, dès que tu vois un peu de lumière,
non, là, je suis pas.
Il peut réussir. Je ne dis pas. Attends, j'explique. Je ne dis pas qu'il peut pas réussir. Tout le monde peut réussir. Mais il a très peu de chances de réussir. Statistiquement, il a très peu de chances. Alors qu'un autre, d'accord, il est dans une famille bien éduquée, socialement, la bonne école, d'accord, il a été bien entouré, et il a très peu de chances de rater. Pourquoi tu veux qu'il rate? C'est la question de Job. Job, il dit, finalement, Job, il dit, ton monde, il est pas équitable. C'est pas équitable ce que tu fais. Il pose une question à Dieu. Il lui dit, tu as créé les tzadikim, tu as créé des rechaim. Si vraiment tu veux nous juger, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu aurais dû tous nous mettre dans les mêmes conditions. Tu nous donnes tous le même moteur, les mêmes conditions. Et là, tu nous juges. Ça, c'est la question de Job. Qu'est-ce que Dieu ne répond pas à cette question.
C'est-à-dire nous donner les mêmes armes à tout le monde.
Ben oui, les mêmes armes, les mêmes outils, avec les mêmes éléments de départ. Or, on les appelle les mêmes éléments de départ. C'est pas bon? Mais ça, c'est la question de Job. Parce que tu comprends, je vais répondre à la question d'Avner. Avner, il dit, oui, mais il suffit après d'appliquer un jugement équitable. Je réponds à ta question. C'est que c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que le tzaddik, d'accord, comme il fait une mitzvah et qu'il kiffe sa mitzvah, ça lui donne envie d'en faire une deuxième. Oui. Sur Yitzhara, quand il va venir le voir, il lui dit, ne fais pas la mitzvah. Il dit, va te faire voir ailleurs, je la kiffe la mitzvah. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce qui me prend la tête? Tu comprends? C'est évident qu'il va la faire, sa mitzvah. Par contre, le rachat, quand le Yetzer Toi va lui dire viens faire une mitzvah, il va dire mais laisse-moi tranquille avec ta mitzvah, ça m'intéresse pas ta mitzvah.
Tu as dit qu'il a annihilé.
D'accord?
Tu as dit qu'il a annihilé le Yetzer
Toi. Évidemment. D'accord? Alors, quand je parle de... Ça veut dire que même si t'as un mauvais penchant, même si t'as une pulsion qui vient le déranger. Mais même pas, elle va lui parler, c'est impossible. Ça capte même pas. Imagine-toi quelqu'un, je te donne un exemple. Imagine-toi quelqu'un, par exemple, que de toute sa vie, depuis qu'il est né, il fait Shabbat. Oh, Hachem. Il fait Shabbat. Il a toujours fait Shabbat. Il a toujours kiffé le Shabbat, etc. Un jour, le Tzahara, il vient lui mettre dans la tête une idée, d'accord? Il lui dit, viens, ce Shabbat, on fait pas Shabbat. Même pas ça capte, même pas ça rentre. Ça passe pas, ça rentre pas.
D'accord?
Voilà. Ça rentre même pas, j'en ai rien à faire. Ça me parle même pas. Alors, ça, c'est la question de Job.
Mais s'il lui met un appât en évidence, il peut tomber dans le.
Alors maintenant, bien sûr, oui, mais très peu de chances de tomber. Vraiment que ce soit très très gros pour qu'il tombe. Très peu de chances, il a très très peu de chances de tomber.
Dieu, il peut juger par exemple deux personnes. Il s'agit qu'un rachat,
Oui, évidemment.
Enfin, je t'ai donné tel potentiel. Et au rachat, toi aussi, je t'ai donné tel potentiel.
Évidemment.
En fonction de ces potentiels. Voir qu'est-ce qu'ils ont fait.
Toi, tu parles en tant que salaire et punition. Moi, je parle pas en tant que salaire et punition. Moi, je parle en tant que concrètement, qui c'est qui va vouloir bosser, qui c'est qui ne veut pas bosser. Quand quelqu'un il travaille, il gagne de l'argent, il a envie de travailler, même s'il travaille très dur. Tu crois que les grands patrons, ils sont en train de s'endormir sur leur laurier. Ils travaillent très dur, mais quand il voit qu'il gagne, il a envie de travailler. T'en as un autre, il est là, il gagne rien. Il a pas envie le matin de se lever. Tu dis mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller travailler, tu vas gagner. Oui, mais il a pas envie de travailler parce qu'il sait qu'il gagne rien. Tu comprends? C'est la même chose. Tu as un saint sadique qui gagne, il perd, ça marche. Évidemment qu'il a envie d'aller bosser. L'autre, ça marche pas. Chaque fois, il se casse sa figure. Très souvent, quand il arrive à la fin de la journée, le bilan, il voit qu'il a perdu plus d'argent que ce qu'il en a gagné. Le lendemain matin, il se dit bon. Ça y est, ça suffit. Ça motive plus. Alors, en vérité, c'est écrit dans le Zohar, commente encore plus loin ce que Job dit. Et le Zohar dit comme ça. Il dit que Job a fait que deux catégories. Il a dit les tzadikim, les rechaim. Le Zohar pousse encore plus loin que ça. Il dit il n'y a pas que deux catégories, il y a encore plus que ça. Deitab et Tikkunim, comme c'est écrit en Tikkun et Zohar, Sheyesh ben Nishmat Israël, qu'il y a dans les âmes d'Israël, Kama, Miné, Madregot ou Prinot. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs types de niveaux, ça veut dire que dès la conception, ils sont différents. Il va citer plusieurs niveaux. Il y a des gens. Chassidim, Giborim, Amid Gabrim Alitzram. Je vais traduire tout de suite. Mare Torah, Nevi'im, Tzadikim, Roulé Ayensham. Alors là, il donne pas mal de définitions, on va essayer de le commenter une par une. D'abord, première définition, il donne la définition de chassidim. Il y a des gens qui sont pieux par définition. Quelqu'un de pieux. D'accord? Par définition, depuis qu'il est psy, il était pieux. Assidu, pieux. D'accord? Il y a des gens qui sont giborim. C'est quoi un gibor? Gibor en hébreu, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort. C'est-à-dire que c'est des gens que peut-être leur yetzara leur dérange, mais c'est des gens qui arrivent très très facilement à casser leur yetzara. Ils sont forts. Ils ont une force de caractère. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une très grande volonté. Et ça, tu le vois. L'enfant, depuis qu'il est petit, tu vois que celui-là, il a une volonté tenace. Quand il veut quelque chose, il l'aura. Tu comprends que celui-là, quand il va avancer dans la vie, quand son Yitzhara l'embête, il a des armes très fortes pour casser son Yitzhara. Peut-être que son Yitzhara lui casse les pieds. Mais il a une volonté. Ça veut dire que quand il décide quelque chose, il le fait. Deuxième catégorie. Troisième catégorie. Maré Torah. Tu as des gens qu'on appelle des maîtres de la Torah. C'est-à-dire que tu as des gens que, par définition, ils sont attirés vers la Torah. Ils kiffent la Torah. Je parle d'étude de la Torah. Par définition, depuis qu'ils sont petits, ils kiffent l'étude, ils baignent dans l'étude, ils aiment l'étude. C'est comme ça, ils sont comme ça, ils sont dedans. Tu comprends? Donc, c'est une personne, il est né dedans, il est comme ça, et il a une attirance vers ça. Comme il y a des gens qui ont une attirance vers la musique, d'accord? Ils sont doués pour la musique, il y a des gens qui sont doués pour la Torah. D'accord? Troisième chose. Quatrième chose. Nevi'im. Tu as des gens qui sont des prophètes. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quoi un prophète? C'est une personne qui capte, on va dire, des choses qui sont ici, mais que pas tout le monde voit. C'est ça, un prophète. Qui sont cachés. Il y a des gens qui sont comme ça. D'accord, t'as des enfants, même quand ils sont enfants, ils voient un adulte passer, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, on dirait que vous allez pas bien aujourd'hui. Oui, il a vu qu'il va pas bien. Il a capté la manière comment l'adulte marchait, il a capté que l'adulte ne va pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses que même un enfant, il est capable de capter. Il capte. Ça s'appelle la prophétie, ça. Être capable de capter des choses que personne ne capte. Ça, c'est un don. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. D'accord? Donc, quatrième catégorie. Enfin, cinquième catégorie que donne le Zohar, c'est quoi? Tzadikim. Des gens qui sont par définition qui sont justes. C'est quoi juste? C'est-à-dire c'est des gens que par définition, ils sont toujours tentés de faire la bonne chose au bon moment. Ça veut dire que des gens que par définition, dès que tu lui donnes un bon choix, un mauvais choix, tout de suite, c'est évident qu'il fait le bon choix. C'est des gens, si tu veux, ils suivent. Tu lui demandes, ils suivent. Tu lui dis faire ça, il fait ça. Il sait pas ce que ne pas faire ce qu'on lui demande. Alors, contre tout ce que je vous ai dit maintenant, il y a aussi, malheureusement, les caractéristiques contraires. D'accord? Ça veut dire, si on verrait le contraire, c'est quoi le contraire de quelqu'un qui est pieux?
Qui est pieux.
Racine. D'accord? Ben, quelqu'un qui est pas pieux. C'est rien, voilà, qui est pas pieux, qui est pas racine. D'accord? C'est quoi le contraire de quelqu'un qui est, mais il faudrait trouver le mot en français, j'ai pas envie de... Le contraire, un impie, voilà. Razak, un impie. Un impie, c'est bien. Donc, un impie, d'accord?
Le contraire de pieux, quelqu'un de pieux.
D'accord? Ensuite, le contraire d'un gibor. Gibor, c'est quelqu'un de fort, qui se bat contre les Tsarara. Quelqu'un de faible. Quelqu'un que c'est très faible. C'est-à-dire que quand il prend une décision, avant que ça tienne, ça prend des années. Et encore. D'accord? Ça, c'est donc le contraire de la deuxième catégorie. Troisième catégorie, on a dit, c'est des gens qui sont attirés vers la Torah. D'accord? Il y a des gens que par définition, ils ont beaucoup de mal avec la Torah. Moi, j'ai vu des gens comme ça, même à la Yeshiva, vous savez. Des gens comme ça. Il reste assis un quart d'heure à sa chaise, il arrive pas, il se lève, il faut qu'il aille prendre un café, il faut qu'il aille prendre un truc, il faut qu'il aille demander au copain comment il va, il faut qu'il aille aux toilettes, qu'il fasse aller le retour, et là, il tient pas en place.
Oui, mais des fois, le faible, il a plus de mérite que le fort.
Évidemment qu'il a plus de mérite. Ouais. Ça, c'est sûr, ça, c'est la question d'Avner. Il a 1000 fois plus de mérite. Mais ça change pas. Ça change pas que, il a beaucoup plus de mérite, mais d'un autre côté, il aura beaucoup plus de mal. Et donc, il a beaucoup moins de chances de réussir.
Oui.
Vous comprenez? Parce qu'il n'arrive pas. C'est très dur pour lui. Ok? Ensuite, on avait Nevi'im, les prophètes. C'est quoi les prophètes? Les prophètes, on a dit, c'est ceux qui savent capter les choses.
Donc un naïf.
Donc le contraire d'un Nevi, c'est quoi? C'est une personne justement qui ne capte pas, qui capte rien.
Même le naturel, il le voit pas.
C'est des gens qui captent pas. T'as des gens qui ne voient rien. Tant que tu ne le montres pas devant les yeux, que tu ne lui dis pas, il ne voit pas. Il ne voit rien du tout. D'accord? Voilà. Et enfin. Tzadik, le contraire d'un tzadik, c'est un rachat, un mécréant. C'est-à-dire, le tzadik, quand tu lui donnes deux choix, tu lui dis voilà, là, là, directement, par définition, il va faire le bon choix. Le rachat, naturellement, il fait le mauvais choix. Et si il va bien faire un effort, il fera le...
C'est pas mécréant.
Hein?
C'est pas mécréant.
Hein. Ah, c'est le mal.
Rachat, c'est un mauvais. Ouais,
non,
rachat,
c'est un
mauvais.
Pareil.
Si, mécréant, c'est mauvais.
Fabius, c'est un
mécréant. Non, mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est pas ça.
Non, c'est un mécréant.
C'est un mauvais.
Ah bon?
Un mauvais, oui.
Quelqu'un qui ne croit pas, c'est un athée.
C'est quelqu'un qui fait le mauvais choix par définition. Injuste, il fait le juste choix par définition.
C'est bien.
C'est un méchant. Comme t'as un gentil et t'as un méchant. Un méchant, il veut toujours faire le mal. Tuer, machin. Un gentil, il veut toujours.
Naturellement. Ça veut dire que dès que tu lui donnes deux choix, d'accord? Dès qu'il a devant les possibilités, soit de faire une bêtise, soit de faire un truc bien, il fera la bêtise, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il fera la bêtise. Tu peux signer Jean Mauvais qu'il fera la bêtise. D'accord? Alors, ça, c'est ce que dit le Zohar. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici?
Et quel est le but, alors, du coup?
Alors, justement, ce qu'on voit d'ici avec ce que nous dit le Zohar ici, c'est que, en fait, on voit que dès le départ, avant même que je commence ma vie, quand ma neshama est encore dans le ciel, et après, la neshama descend dans le ventre de ma mère. À un moment que je commence ma vie, il y a déjà une prédestinée. Il y a déjà une prédestinée sur le style et le caractère que ma neshama aura. Et ça, je peux rien y faire.
Alors, pour qu'on est jugé.
Une seconde. Seulement. Alors, c'est ça qui veut t'expliquer ici. Tu ne seras pas jugé sur la personne que tu as été. Pourquoi t'as pas été un tzaddik? Non. Tu seras jugé sur la manière comment tu t'es comporté, vu les éléments qu'on t'a donnés. Ça veut dire, par exemple, une personne qui est khalash, qui est faible, c'est-à-dire qu'il a du mal. Il n'a pas beaucoup de volonté, il a très peu de volonté. Cette personne-là, quand il va arriver en haut, on lui dira pas pourquoi tu n'avais pas de la volonté, toute ta vie. Non. On lui dira pourquoi tu n'as pas fait un effort au moins pour avoir une fois par an de la volonté. Pour que ça marche au moins une fois par an. L'autre, d'accord? Nous
on peut faire un reproche.
Évidemment que personne ne peut faire de reproche.
Nous, on peut faire un reproche à l'envers. Ça veut dire. Pourquoi tu m'as fait avec aussi peu de volonté?
Tu peux demander à Dieu. C'est une très bonne question.
Mais il peut te répondre. Moi, je t'ai créé avec peu de volonté. Regarde ce que t'as fait. Alors, si je t'avais, tu m'aurais déçu encore plus.
C'est la question du chapitre 15. D'accord? C'est la question du chapitre 15. Et dans le chapitre 15, on va voir que Dieu peut faire des grèves de temps en temps. D'accord, voilà.
C'est des greffes.
Des greffes, oui, vous savez, les greffes. Mm-hmm. Ou bien aujourd'hui, comment ils appellent ça, comment ils appellent ça, là, quand
l'extension. On veut...
OGM.
Non, quand ils veulent, organiser. Ils veulent faire un, non, ils veulent, non, comment on appelle ça, quand on prend, cloner. D'accord. Il te prend, hop, il prend, hop, il clone, hop, t'es une copie de monsieur.
Ah ouais, mais ça, c'est les copies, ouais, c'est copie conforme, là.
Oui, mais, parce qu'on peut avoir la même personne qui a plusieurs clones.
Voilà.
Ok.
Mais le caractère, tout ça, il n'y a rien.
Donc, ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ce qui va te rassurer ici, après justement pour ce juge de Kippour, il lui dit, écoute, ne sois pas choqué si t'es pas comme ça. Tu es comme tu es. Ne cherche pas à être ce que tu n'es pas. Là, voilà, quand on voit toutes ces catégories, forcément, on rentre dans une de ces catégories. Et tu dis, écoute, tu es comme tu es. Ne cherche pas à devenir ce que tu n'es pas. Cherche à servir à Kadosh Baruch Hu, vu l'état dans lequel tu te trouves, et essaye de te comporter comme tu veux. Avec tes capacités, avec tes possibilités à toi. D'accord, Mazal Tov. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il y a seulement des grandes neshamot, des neshamot très élevées, des neshamot particulières, qui arrivent, comme on a expliqué, à faire du chiffre et directement à taper très très fort. Nous, on n'est pas dans ce niveau-là. On n'a pas la capacité à ce niveau-là. D'accord. Alors maintenant, très bien. D'accord. Maintenant, dans ce cas-là, on aurait pu dire, bon, très bien, on ferme le livre. Ah bah, au Hachem, je me connais, je sais ce que je suis, je sais ce que je vise. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je dois quand même essayer de devenir ce que je ne suis pas?
Donc se dépasser.
Donc me dépasser. Donc par exemple, est-ce que je dois chercher à devenir tzaddik?
Ah.
Est-ce que je dois chercher à devenir ce que je ne suis pas? Alors, si je m'arrête à ce que je... Non, c'est pas dit ça.
T'as dit de faire.
C'est pas
besoin.
Attends. Non, j'ai pas dit ça.
Tu as dit que quand tu vas aller voir...
C'est pas devenir ce que je suis pas.
Il va te dire qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as pas fait.
Très bien.
En fonction de tes capacités.
Évidemment. D'accord. Ça, c'est après coup. Ça, c'est après coup. Maintenant, quand je suis sur le terrain.
Justement, je fais...
Quand je suis sur le terrain. Est-ce que je dois essayer d'élargir l'horizon, oui ou non?
Mais si j'en ai pas les possibilités,
je te donne un exemple. Imagine-toi quelqu'un qui a une petite boutique de quartier, ouais. D'accord, qui fonctionne normalement. Ouais. Et comment il pense qu'il est fait pour ça? Il ne pense pas qu'il est fait pour plus que ça. Ouais. Est-ce qu'il doit, dans sa tête, se poser la question, se penser à élargir?
Qu'est-ce qui l'empêche?
Mais évidemment, bien sûr.
Alors, si on suit l'approche qu'on a vue jusqu'à maintenant, on serait peut-être tenté de dire, écoute, tu vois bien que t'es conçu comme ça, que t'es pas conçu différemment, alors reste comme tu es, cherche pas des problèmes.
À zéro,
d'accord?
Mais pas changer.
Seulement.
Améliorer.
Qu'est-ce qu'on a vu?
Pas changer, améliorer.
Qu'est-ce qu'on a vu? On dit que seulement le problème c'est quoi? C'est que avant que la Neshama descende sur terre, chacun de nous a juré, on l'a fait jurer, et on a tous juré. D'accord? Dieu lui a dit, Tehi tzadik ve'altehi racha. Avant que la Neshama descende sur terre, quand on était dans le ventre de notre maman, Dieu nous a fait jurer, il nous a dit, sois un tzadik et ne sois pas un racha. Alors, comme on a compris jusqu'à maintenant, soit un tzadik et ne soit pas un racha, ça veut dire comporte-toi bien et ne fais pas de bêtises. Mais maintenant qu'on a compris que tzadik, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de pulsion vers le mal, qui n'a pas d'attirance vers le mal. Qu'est-ce que tu viens voir une personne, quand 99,9% des gens qui ne sont pas conçus pour être tzadik, tu lui dis soit tzadik. Mais non, je ne serai jamais tzadik.
C'est ça.
Ah, pourquoi tu me dis soit tzadik? Est-ce que je dois aspirer à être tzadik? Ça, c'est la réponse qu'il va répondre aujourd'hui. Il va expliquer que pourquoi je dois continuer à aspirer d'être tzaddik alors que statistiquement je sais que je ne deviendrai pas. Puisque 99,99% des gens ne deviennent pas. Donc pourquoi je perds mon temps à aspirer à quelque chose que je n'y arriverai jamais? Et c'est là qu'il va expliquer quelque chose de très important aujourd'hui. C'est l'importance de chercher à élargir ses horizons et de ne pas se suffire de ce qu'on a. Très important ça. C'est un message général dans la Torah. La Torah te dit il faut jamais te suffire de ce que tu as. Parce que même si tu n'arriveras pas à élargir, il faut quand même essayer à élargir. Il faut quand même essayer à te dépasser et faire quelque chose que tu pensais qui était inaccessible. Après, est-ce que tu deviendras? J'en sais rien. Mais toi, il faut viser haut. Il faut viser. Il faut vouloir. Tehi, vouloir. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Ou bah, Zeyuvan, maintenant on va comprendre. Kefel, la chana joua. Avec ça, on va comprendre pourquoi. Le serment qu'on fait avant de descendre sur terre. Là, Neshama, avant de descendre sur terre, qu'est-ce qu'on lui fait jurer? On lui fait jurer. Tehi tzadik ve'al tehi racha. On le dit, soit tzaddik et ne sois pas un rachat. A priori, il y a c'est un double langage, parce que si tu dis à quelqu'un soit tzaddik.
Si tu m'as fait naître rachat.
Attendez, quand je dis à quelqu'un soit tzaddik, ça veut dire qu'il sera pas rachat, c'est automatique. C'est normal. S'il n'est pas rachat, il est tzaddik, parce que c'est binaire, soit je suis tzaddik, soit je suis rachat. Pourquoi on me dit soit tzaddik et ne sois pas rachat? Pourquoi, quand on me donne la feuille de route avant de descendre sur terre, on me dit soit tzaddik et ne sois pas rachat. D'abord, pourquoi tu me dis soit tzaddik? Je deviendrai pas tzaddik, je suis pas conçu pour ça. En plus, tu me dis soit tzaddik et ne sois pas rachat. Ben, évidemment que je serai pas rachat si je serai tzaddik. C'est quoi cette phrase-là? Maintenant, on comprend. Qu'en vérité, d'abord la question. Dile chorat à moi, c'est étonnant. Qui m'a rar, chez machbim, ototei tzaddik, puisqu'on lui fait jurer soit un tzaddik, la matrim machbio, otcheloye rachat. Pourquoi on a besoin de le faire jurer ne soit pas un rachat? Ça sert à rien. Il sait très bien qu'il soit pas un rachat. Seulement quoi? Et là seulement, Michoum, c'est parce que chez En Kol Adam Zoché Liot Tzadik, c'est pas tout le monde qui mérite de devenir tzadik. Il y a qu'un pourcentage infime de ce monde-ci qui devient tzadik. Ve En Le Adam Mishpat Abechira Basé Kolkar. le choix de la décision de devenir tzaddik n'est pas attribué à l'homme. C'est pas moi qui décide ce que je vais devenir tzaddik ou pas. C'est Dieu qui décide la neshama qui m'a donné. Est-ce que je vais pouvoir avoir du plaisir vraiment de Dieu? Que comme un tzaddik, que le mal sera un dégoût à mes yeux et que je vais kiffer la divinité, et que je vais être à fond dedans. Je peux pas maîtriser ça. C'est pas des gens qui sont dans mon domaine. C'est Dieu qui maîtrise ça. Voilà pourquoi on lui dit, écoute, tu ne sais pas encore comment tu es conçu. Quand tu descends ici-bas, peut-être que je suis conçu pour être tzaddik. C'est possible, peut-être, c'est possible. Amen. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit? Tehi tzaddik. Quand tu démarres dans ta vie, efforce-toi, cherche à devenir un tzaddik. Mais on te dit, si tu es comme 99,9% des gens et que tu vois à un moment, tu te rends compte que ça décolle pas, alors on te dit, ok. Si maintenant, au bout d'un certain temps dans ta vie, tu te rends compte que tu n'es pas tzaddik, alors au moins, hein, altei racha, au moins ne sois pas un racha. Ça veut dire, au moins, hein, sois un benoni.
Il dit même autre chose.
D'accord? Alors, j'ai expliqué. Ça veut dire, si tu n'es pas, non, le but, rappelez-vous, le tzaddik, c'est celui qui n'a pas de pulsion négative, qui est à fond dans le spirituel. Le racha, c'est celui qui est à fond dans le mal. Le benoni, c'est celui qui a des pulsions, mais qui se retient. Alors voilà ce qu'on lui dit. Avant de descendre sur terre, on lui dit, tehi tzaddik. Toi, tu dois aspirer à devenir un tzaddik. Ça veut dire à supprimer le mal. Maintenant, si tu n'y arrives pas, au moins, altei racha. Au moins, ne te laisse pas avoir par tes pulsions et cherche à les casser à chaque fois. Mais on t'en voudra pas si tu n'es pas devenu tzaddik. C'est ça ce que ça veut dire.
Oui, quand vous dites, ça veut dire il faut devenir benouni, dans le cours précédent, vous avez dit que pour être benouni, c'est quelque chose de très, très difficile. Et tout le monde n'est pas benouni. Alors déjà, il me met la barre trop haute, là.
C'est quelque chose qu'on peut atteindre.
Mais c'est trop.
Être tzaddik, il dit ici, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je ne peux pas décider de devenir tzaddik. Devenir benoni, je peux décider. Ça sera dur, mais je peux le faire. Je sais que ça marche. Ça fonctionne. Devenir tzaddik, je ne peux pas devenir tzaddik.
Non, enfin, dans le dernier cours, on a vu les conditions pour
être benoni. C'est très dur. Mais c'est accessible. C'est possible.
Une vie ne suffit pas. Hein.
C'est possible. Regardez, monsieur Benita. Quand on est le jour de Kippour, d'accord? Quand quelqu'un vous énerve, je dis bon, ça va, c'est Kippour.
C'est pas l'état.
D'accord? Hein? C'est Kippour quand quelqu'un vous énerve. Je dis bon, c'est Kippour, c'est pas grave. Imaginez que vous, quelqu'un qui toute l'année, il est comme ça. Il peut le faire, c'est très dur, mais tu peux le faire. Je peux me retenir à chaque fois. Chaque fois que j'ai une pensée tordue qui me vient dans la tête, je la repousse. C'est la maîtrise, je peux le faire. C'est dur, mais je peux le faire. Par contre, décider de devenir tzaddik, que le mal ne m'attirera plus, ça je peux pas le faire. Impossible. C'est pour ça qu'avant de descendre sur terre, on dit à la personne, toi tu dois chercher à devenir tzaddik.
Par contre.
Oui.
Par contre, Mechila, mais oui. Juste sur la phrase sur et ne sois pas un rachat,
oui.
Là, dans le livre, il marque, il dit parce que le fait, en fait, de ne pas réussir à un tzaddik, il ne faut pas que ça se transforme en un dégoût et qu'après, tu aies
oui.
Un dégoût après et que du coup, tu veuilles faire le mal par dégoût de ne pas réussir
à un tzaddik. Non, c'est pas ça, non. Là, quand tu parles du dégoût, quand tu parles du dégoût, c'est qu'il dit que.
Bah, il dit d'éprouver un délice véritable.
Oui.
Il dit au choix, voilà, d'éprouver un délice véritable en Dieu et un dégoût véritable pour le mal.
Genre le mal. C'est-à-dire voilà. que le tzaddik, il a un dégoût véritable pour le mal.
Ouais.
Et tu dis, moi, je ne cherche pas à arriver à ça.
Il serait temps.
D'accord. C'est ce que tu dis, c'est encore une autre notion qu'on verra plus tard. Alors, dans les mots. Velachen, c'est pour ça. Alors, bon, j'accélère un petit peu parce qu'on a expliqué beaucoup à l'oral. Velachen, c'est pour ça. Hein. Je suis en haut de la page 200. Majbim, Oto. D'accord. Altei Rachal Kolpanim. Voilà pourquoi on le fait jurer un deuxième serment. On lui dit, sois un tzaddik. Et si tu vois que tu n'y arrives pas parce que tu ne peux pas décider de le devenir, alors au moins, ne sois pas un rachat. Parce que devenir un tzaddik, c'est pas dans ta décision. Tu peux pas décider toi. Mais par contre, ne pas devenir racha, c'est basé que dans ça, mishpat abechira, le choix, d'accord, et la décision du choix, ve'areshut, d'accord, et la permission de décider, netunah lechol adam, elle a été donnée à tout le monde. C'est moi qui décide est-ce que je suis racha ou pas. Limshol beruach tavato shebelibo. Pour être benoni, il suffit de dominer l'esprit du désir qu'il y a dans mon cœur. Ça veut dire que j'ai un désir, mais je me laisse pas faire. Ça, tout le monde peut le faire. Vous voulez dire boshitro, d'accord? Ça veut dire convaincre, conquérir, si on pourrait traduire ça comme ça, son yitzara. Chez lo yiracha a filoucha achat kolimav, de pas devenir un racha même un instant toute sa vie. Ben mibrinat sourmera, ben mibrinat vaasetov. Ni de devenir un racha en omettant, d'accord, d'accomplir une mitzvah positive, ni en devenant un racha en accomplissant une mitzvah négative. C'est-à-dire, ni par exemple devenant un rachat en oubliant de mettre les tefillines, ni devenant un rachat en transgressant une mitzvah négative, d'accord, par exemple, en mangeant le jour de Kippour. Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai pas envie d'être rachat. Ça, je peux le faire. Ça, personne peut le décider à ma place. Ein Tov et la Torah. Quand on dit le bien, c'est surtout la Torah. Da'inu, ça veut dire Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah Keneged Kulam équivaut à tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il te dit ici, c'est que le challenge le plus dur du Benoni, c'est encore plus qu'on est. Ça, c'est une illusion qui est ici. Le challenge le plus dur du Benoni, c'est pas seulement de faire attention à pas regarder une femme et faire attention à pas faire des bêtises, etc. C'est très dur ça, mais c'est pas ça son gros challenge. D'accord ? Son challenge, c'est pas ça. Son challenge va être qu'est-ce que tu fais dans les temps morts ? Chez un juif, il n'y a pas de temps mort. Chaque instant de libre, tu dois étudier la Torah. C'est très dur ça. Chaque instant de libre. D'accord ? Béchor Bechov, pas seulement, toute la journée. Toute la journée. Kolayom. Yomam Valaïla, le jour et la nuit. C'est-à-dire, dès que tu travailles pas, dès que tu es là, tu n'as rien à faire, bah, tu étudies la Torah. La Torah accepte qu'il y a des moments où tu peux te reposer.
Final,
mais il y a plein de temps mort. Il y a plein de temps mort. Il s'est bourré de temps mort. La Gemara dit qu'il n'y a pas un jour qui passe qu'on ne fait pas la faute de Bitul Torah. Et ça, c'est le Benoni, c'est une guerre pour lui. C'est une guerre pour ne pas rater un seul instant et ne pas se laisser faire et ne pas perdre un seul instant. C'est très dur pour lui. Mais tu peux le faire. Ça, tu peux le faire parce que ça, c'est quelque chose qui dépend de ta volonté. Par contre, décider de devenir un tzaddik, ça tu peux pas décider. C'est pour ça que quand, avant de descendre sur terre, on lui dit, sois un tzaddik et ne sois pas un rachat. Donc, pour répondre à la question, on avait posé une question au début, dans le premier chapitre, on avait dit, d'un côté, Job dit, tu as créé les tzaddikim, tu as créé des réchaïm. D'un autre côté, avant de descendre sur terre, on te dit, sois un tzaddik et ne sois pas un rachat. Comment comprendre ces deux paroles-là? La réponse est très simple. Dans l'absolu, on sait que Dieu a créé des gens, il les a conçus pour devenir tzaddik. D'autres, il ne les a pas conçus pour être tzaddik. Mais moi, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que je sais ce que Dieu a prévu pour moi? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu a prévu que je devienne tzaddik. Peut-être que nous deux, on va travailler ensemble. On a eu la même éducation, la même chose. Et pendant 40 ans, on travaille ensemble. Et un jour, vous devenez tzaddik, moi, je ne le deviens pas. J'en sais rien. C'est pour ça que la Torah te dit, il n'y a pas un message, il n'y a pas une étiquette sur ta tête où c'est écrit, le bonhomme, il a une étiquette option tzaddik. Il a l'option, mais c'est pas écrit. Donc, comment tu sais si tu as l'option?
Il faut la développer.
Comment tu sais si tu as l'option? Il faut tester. Il faut tester. Et là, quand tu testes, tu vois si tu l'as ou tu l'as pas. C'est-à-dire, on te donne un appareil, mais on te dit pas les options qu'il a. Et tu dois tester, et quand tu vois si ça marche, c'est que tu as l'option, ça marche pas, c'est que t'as pas l'option. Donc, l'option, c'est dit que tu as un moment, pack, il arrive un moment, il dit, ah, ça, c'est fini, j'ai plus de sensation vers le mal. Ah, il dit, ah, bah tiens,
je savais pas.
Vous avez l'option, c'est dit.
Oui, mais l'option.
T'as piraté,
ouais, mais ça dépend.
Il n'y a pas un code, il n'y a pas des codes, il y a des codes, les jeunes, ils sont dans les codes. Tu mets un code, on te rajoute des armes, on te rajoute de voler, tu peux. Vous connaissez pas, ça, mais c'est mieux. Vous connaissez dans les codes. Les jeunes, ils ont des codes, tu vois.
Il y a on a plus de chances d'être tzaddik.
Il va aller au premier monde, il veut directement aller au 50e monde. Il met un code et après hop, on lui fait des trucs, il se met à voler, il se met à voler dans les airs. C'est les jeunes, ça. Alors, mais nous dans la Torah, on te dit que tant que tu n'as pas essayé, tu sais pas si tu l'auras ou tu l'auras pas. Donc tu dois essayer. Mais si tu ne deviens pas tzaddik, au moins ne deviens pas un rachat. À Falpiken, quand même. Alors maintenant, la question est la suivante. Finalement, quelle est la différence? En un mot, la différence fondamentale qui est entre le Benoni et le Tzadik, puisque de toutes les façons, les deux ne font pas de Averot. Quelle est la différence?
Le Benoni, il a le choix de faire le bien ou de faire le mal, alors que le Tzadik, il a le choix de faire le bien ou de faire le mieux.
Mais il y a plus que ça. Il y a plus
c'est
que
pourtant
ça.
Le fondamental.
C'est que le Benoni n'a pas le dégoût du mal, le Tzadik a le dégoût du mal. Les deux, concrètement, ne fautent pas, mais le Benoni n'a pas le dégoût du mal, le Tzadik a le dégoût du mal. Et là, je vous donne un exemple. Il va amener un exemple, par exemple, pour les femmes. D'accord.
Oui, mais enfin, ça
attendez, deux secondes, laissez-moi arriver. Oui, d'accord. Par exemple, pour les femmes.
Le
principal, c'est de ne pas voter.
Ben voilà.
Ça, c'est clair.
Voilà.
D'accord. Mais, il y a une différence entre le Benoni et le Tzadik, c'est que le Tzadik, quand il voit une femme qui ne lui appartient pas, ça ne l'attire même pas. Et au contraire, ça le dégoûte même. C'est-à-dire, même une pensée comme ça, ça le dégoûte. Alors que le Benoni, ça le dégoûte pas du tout. Au contraire. Seulement, il va se faire un effort de ne pas y penser et de ne pas passer à l'acte et de ne pas avancer. Il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, la question qui se pose, une question très importante. Il dit maintenant, est-ce que le Benoni doit essayer de créer en lui un dégoût vers le mal, s'il sent qu'il n'est pas tzaddik? Comprenez la question? Puisqu'on a expliqué que si tu n'es pas tzaddik, tu n'as pas l'option de tzaddik, tu n'auras jamais le dégoût du vers le mal, est-ce que je dois quand même essayer de développer un dégoût vers le mal? Qu'est-ce qu'il va te répondre?
C'est pas bon.
Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire oui. Il va te dire, tu dois essayer de développer un dégoût vers le mal. Ça veut dire quoi? Même si a priori ça marche pas, tu dois te fixer des moments pour réfléchir et pour penser au fait que des avérotes sont mauvaises pour le fait de t'assurer de ne pas tomber. Et il va expliquer tout de suite. Afal piken, quand même, dans les mots. Tsarich likboa lo itim gamken. Un homme de se fixer des moments. Lachit et tsot benafcho. Pour essayer de se rechercher en soi-même. Liot moes bera. D'avoir le dégoût du mal. Vous êtes allé dans les mots?
Je suis à la page 201.
J'accélère, hein, parce qu'on a fait beaucoup à l'oral, c'est pour ça.
Il n'y a pas de salaire ici. Où est le
salaire? Au milieu de la page 201. Au milieu, Kegon.
Ah, 201, ah oui.
Kegon, par exemple. Beatzat Rachamenu Zichronam Livracha, par exemple. Il y a un exemple que les Rachamim donnent. D'accord. Alors ça va être un peu hard ce que je vais dire. Il y a un exemple que les Rachamim donnent. Pour quand quelqu'un il est un peu trop attiré vers les femmes et il n'arrive pas à s'arrêter. D'accord. Il y a un conseil que les Rachamim donnent. Ils disent comme ça. Ils disent qu'un homme doit s'imaginer. Vous avez vu la traduction ou pas?
Ouais.
Hein? Hein?
Oui, moi je.
Ils disent
pas,
que.
Moi je dis que si une bon. Femme. Si une femme elle dit ça, ouais. On a le.
Alors.
C'est même pas la peine de rentrer ce soir et de lui dire j'ai appris.
Alors,
ça.
Voilà, non, c'est surtout pas.
Tu rentres pas chez toi.
Ça c'est vraiment.
Ça c'est. En train de nous dire ça reste entre
hommes. Les vieilles.
Ça c'est vraiment entre hommes. Mais regardez ce qui est écrit.
Alors on va voir.
Il dit comme ça.
Texte,
alors c'est un texte, d'accord.
Dis le texte.
C'est un texte qui dit comme ça. C'est un texte de Michelet du roi Salomon qui Allez. Dit qu'une femme est une gourde pleine d'excréments.
Ah non, d'accord. Il exagère.
Et pleine de sang. Attendez, écoutez, je vais finir.
Voilà,
et que Rashi, écoutez ce qu'il dit Rashi. D'accord. C'est écrit. Et que Rashi dit là-bas, il dit que si ce n'était pas Dieu qui avait décrété qu'on doit être attiré vers les femmes, eh ben jamais j'aurais été attiré vers les femmes. Ça veut dire quoi? Mais attention, vous savez que c'est comme dans les... Quand il y a des gens du préserve qui ont des attirances qui sont très très fortes, alors quand ils vont aller dans un traitement, dans le traitement, on va leur montrer des images très choquantes pour essayer justement au contraire de les dégoûter au maximum. C'est un peu, là, on est dans un traitement très hard. Là.
Ah.
On parle d'une personne qui est hard aussi, c'est pour Bien ça sûr. Qu'il faut, voilà, il faut aller...
Voilà, voilà.
C'est l'équivalent. Mais... On parle d'une personne qui ne s'arrête pas, donc il faut un peu le calmer. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que lui dit la Gemara? Donc Mara lui dit qu'il doit réfléchir, d'accord, qu'il doit réfléchir un conseil, comment en vérité la femme vers laquelle il veut aller, c'est une gourde pleine d'excréments. Alors c'est très difficile de penser comme ça. Je vais aller un peu plus loin.
Attendez.
Il explique ici que c'est, en vérité ça c'est applicable aussi par exemple. Bien sûr, il te choque, il faut choquer.
Oui, mais alors.
Attendez, laissez-moi s'il vous plaît. Il donne un deuxième exemple. D'accord. Il donne un deuxième exemple. Non, surtout pas, ouais. Ne répétez pas ça à votre
heure. Non.
D'accord.
Non,
pas le but.
Non.
Maintenant, je donne un autre exemple. D'accord. Il y a des fois des gens par exemple, ça peut nous arriver à tous, qui aiment bien manger. Ok. On aime tous bien manger, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette nourriture?
Qu'est-ce
qu'elle va devenir cette nourriture?
Elle va devenir du sang.
Elle va devenir du sang, de la chair, d'accord, etc.
90%
de déchets. Hop, et après 120 ans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir l'entrecôte que j'ai mangé? Elle va devenir quoi à la fin? D'accord? Ça va être de la chair pour les vers. Voilà ce que ça va devenir. Ça va devenir de la chair pour les vers. C'est-à-dire que plus tu manges, et plus j'aurai des vers qui vont me becquer après.
Voilà.
Donc l'entrecôte.
Tout à l'heure, vous
oui,
avez
mais,
dit.
Mais des fois, je suis pas tout à fait
alors,
d'accord. Parce que des fois, on peut avoir une vision des femmes qui flatte, au contraire, Hachem, qui, quand vous voyez une belle femme.
Alors, la Gemara.
Ça flatte la Gemara. Je sais pas, moi je vois.
La Gemara, elle raconte. La Gemara, là-bas, dans le traité Sanhedrin. D'accord.
Moi, je vois des choses comme ça.
D'accord.
La
Gemara, dans le traité Rabotai. Alors, peut-être, parce que j'aimerais terminer le chapitre. La Gemara dans le tri, combien de temps il nous reste? Ah ouais. Bon, on va accélérer un petit peu. Donnez-moi encore 5 minutes. La Gemara, là-bas, elle raconte une histoire. Elle raconte qu'une fois, il y a une personne qui a vu un morceau de viande, tel qu'il était, quand on venait d'enlever de l'animal. Et après, devant lui, on l'a grillé. Une fois qu'il est grillé, il est appétissant, il a l'air bon. Il sent bon, etc. Mais il était tellement dégoûté d'avoir vu le morceau de viande quand il venait d'animal, qu'il était dégoûté d'avoir vu, il n'arrivait plus à toucher la viande.
Comme quelqu'un qui fait la cuisine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que te dit la Gemara, c'est que des fois, en voyant, Rabotai, c'est important ce que je veux dire ici. Des fois, en voyant le début d'une chose, t'es dégoûté de l'utiliser à la fin. Alors ça peut être la même chose de l'autre côté. En pensant à ce que ça va devenir à la fin, eh ben, t'es dégoûté dès le départ depuis le début. Là, j'ai fait la démarche contraire. C'est ce qu'il dit ici. Ah, bien sûr, je ne sais pas si on est à ce niveau-là. Et honnêtement, le Benoni, il va essayer et je lui souhaite bonne chance. Parce que, bon, tu peux réfléchir à ça. Le Tzahara, il va dire, écoute, t'arrêtes tes histoires de gourdes pleines d'excréments. Cette belle femme n'est pas une gourde pleine d'excréments. Tu arrêtes tes histoires, t'arrêtes tes bêtises. Ouais. Ça, c'est de l'excrément et ça, c'est une belle femme. Ouais, alors, arrête tes histoires.
Si on ne s'approche pas, c'est si on s'approche pas, comment on va se reproduire?
Alors, justement, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le d'après ce que le roi Salomon te dit, quand tu as une personne, quand tu as une personne, non, je parle pas. Attends, je parle pas de ta part. Je parle d'une personne qui a une qui à un moment le Yetzara lui envoie une attirance vers une femme qui lui est interdite. Il est attiré par quoi? Par la beauté. Eh ben, il a le dégoût de cette beauté. Il y a, elle m'intéresse pas, cette beauté. J'ai une gourde pleine d'excréments.
Alors, pour avoir le dégoût de cette beauté, il faut atteindre un niveau.
Un niveau extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est la réponse qu'il donne ici. Il te dit comme ça. Il te dit, à moins que tu sois un tzaddique, tu n'as pas ce niveau-là. D'accord? Et tu n'auras jamais ce niveau-là.
Donc, ça veut dire que c'est permis de regarder.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah, bah oui.
J'ai pas ce niveau. Alors, tant que je n'ai pas de niveau, je peux regarder.
Il te dit qu'en vérité, je sais.
Mais il y a une femme qui vous est interdite.
Oui.
Je sais statistiquement que je ne deviendrai pas tzaddique. Mais il te dit quand même, je dois essayer quand même, de temps en temps, à réfléchir aux choses qui me dérangent et réfléchir en vérité comment ces choses-là sont mauvaises. Peut-être qu'avec le temps, je vais avoir un dégoût du mal. Peut-être, j'en sais rien. C'est possible. D'accord, c'est ce qu'il dit ici. Vechen pareil, kolta nougu olamazé, tous les plaisirs de ce monde-ci. Achacham roé anoladmeem. Celui qui est intelligent, il va réfléchir, qu'est-ce qui va devenir de ça? Quand le bonhomme, il est là, d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? D'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller avec cette femme, et après, qu'est-ce qui va se passer? Et après? Quand tu vas détruire ta famille, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu réfléchis, automatiquement, comme le chacham, il voit ce qui va se passer à la fin, dès le départ, il s'arrête au début. C'est la chorma. D'accord? V.A.F.R. D'accord? Chez Sofan, Lirkov, Eliot, Rima, V.H.P.A. Que finalement, tout ça va devenir de la vermine. Comme on a expliqué. V.A.F.R. Et le contraire. Leit Anet Velismar Bachem, le Benoni, même s'il sait qu'il n'est pas conçu pour ça, parce qu'il n'est pas tzaddik. Parce que rappelez-vous, c'est quoi le tzaddik? Il a le dégoût du mal, il a le kiff absolu du spirituel. Maintenant, moi, je suis pas comme ça, moi, qu'est-ce que tu veux? Si je suis Benoni, c'est déjà pas mal. Je te dis, c'est pas grave, même le Benoni, il dit, écoute, essaie de développer en toi un dégoût vers le mal. Essaye de kiffer, essaye de décoller, essaye. Maintenant, il te dit, Aliyit Bolenu Bigdulat Ansabaru Kefeyichoto, essaye à penser à la grandeur de Dieu à ton maximum, essaye de décoller. Af Sheyodea Ben Nafsho, même si je me connais, je sais pertinemment, chez Lo Yagia Le Madre Gazo Vemet Lamito, je dis, mais à quoi ça sert? Mais c'est pas vrai ce que je fais, je sais très bien que je n'arriverai pas à ça. Je sais très bien que j'arriverai jamais à un dégoût du mal comme ça. Je sais très bien que j'arriverai jamais à un amour absolu et à une attirance, un plaisir divin. J'arriverai jamais à ça, pourquoi je perds mon temps? Kimbe Dimionot! C'est des Dimionot, c'est de l'imagination tout ça. Qu'est-ce que tu perds ton temps? À Falpiken quand même. Qu'est-ce qu'il te dit? Yaseh Tchelo, toi fais ce que tu as à faire. Les Kayem et Tachvoach Mashbim Tei Tzadik. Avant de descendre sur terre, Dieu t'a dit, essaye. Alors je dois essayer. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? J'en sais rien. Moi, ce qui est sûr, en tous les cas, c'est qu'au niveau de l'action, je dois pas voter. En plus de ça, je dois essayer de m'expliquer que c'est pas bien ce que je fais, et que c'est mauvais pour moi. Maintenant, est-ce que je vais arriver à cette conclusion ou pas? J'en sais rien. Parce que c'est possible que le Bélénich, qu'à la fin de sa vie, il dira, ah ben non, la Vera, elle était bonne. Il n'y a pas de raison que je la... Mais bon, oui, Dieu voilà, a dit, je la fais pas. Mais il te dit, même si tu penses que tu n'y arriveras pas, essaye quand même de te convaincre que c'est pas bien, que c'est mauvais, que ça t'amènera du mal et que ça finira en vermine, tout ça. Essaye de le faire. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Moi, je fais ce que je dois faire. Dieu m'a dit, t'es tzadik, moi, je fais ce que je dois faire. Les kayem et tachvoi, t'es shemajvim, t'es tzadik. Va hachem yassatov benav. Et Dieu fera ce qui lui plaît. Ça veut dire que Dieu après, il fera de son côté ce qui lui, Dieu après va compléter, il va décider, est-ce que je deviens tzaddik ou pas? D'accord? Voilà. Moi, je peux pas décider. Ve'ot, en plus. Shahergel, alcool, davar, shinton. D'accord? Arrêtez, je voulais pas bâcler, mais bon. Alors, il donne plusieurs points. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il te dit ici? C'est quoi le thème? D'accord? Je suis désolé, on va dépasser un petit peu aujourd'hui parce que sinon, comme le prochain cours, ça va être après les fêtes, on n'aura pas eu le temps après de...
Y a pas cours lundi prochain?
Non, il n'y a pas cours. Donc après les fêtes, en train avec les fêtes et tout, j'ai envie qu'on commence un nouveau chapitre après les fêtes, comme ça c'est comme un nouveau début. Donc il dit, finalement à quoi ça sert? On s'adresse au Bélénu, on lui dit, tu sais quoi? On lui dit, essaye quand même de vivre, essaye quand même de vivre le dégoût vers le mal, d'essayer de kiffer le spirituel. Il dit, mais j'y arrive pas, à quoi ça sert? C'est pas grave, essaye quand même. Pourquoi? À quoi ça sert? J'y arriverai pas. Il dit, c'est pas grave. Toi, je fais ce que tu as à faire et Dieu fera ce qu'il fera. Mais je sais très bien statistiquement, j'y arriverai pas. Je suis mauvais pour ça. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Alors, il te donne plusieurs réponses. Tu dis, tu sais, il y a un principe qui dit que, ha ergel al kol davar shilton. Que l'habitude, à force de s'habituer à faire quelque chose, eh ben, l'habitude prend le contrôle de la personne. Ça devient venaase tevacheni. Ça devient une seconde nature. Il te dit, tu sais, c'est vrai, tu as raison, qu'en vérité, au fond de toi, t'as pas rien qui a le dégoût du mal. Mais à force de te dire, c'est pas bien, 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 et que c'est pas bien, etc., eh ben, tu vas créer en toi une seconde nature que c'est pas bien. Et que dans ta tête, dès qu'on va te le proposer, tu vas dire, c'est pas bon. Maintenant, pourquoi j'appelle ça une seconde nature? Parce que t'inquiète pas, que le Yitzhahara, si t'envoies un gros paquet, il reviendra à ta première nature. C'est évident. Il t'enverra un gros paquet et ta première nature reviendra. Mais au moins, ce que t'as gagné, c'est que pendant un bout de temps, d'accord, ta seconde nature, elle va te calmer. Et ça, c'est déjà bien, ça. Ça peut t'aider pour pas mal de temps. D'accord? Donc, Naaseh Tevacheni, ça devient une seconde nature. C'est déjà pas mal. Ça veut dire que même si je pense que j'y arriverai pas, essaie de te dégoûter vers le mal. Essaye de penser que cette avère que tu fais n'est pas bien pour toi. Et avec le temps, ça devra une seconde nature que tu diras, oui, oui, c'est vrai. C'est, on peut appeler ça aussi de l'autosuggestion. Pourquoi pas? Ça me dérange pas. En tout cas, avec le temps, je me convainc que ça devient une seconde nature. Ou que chez Yargil, les maes et tara, et quand je vais m'habituer à avoir le dégoût du mal, yenim as ksad bemet, eh bien, j'aurai peut-être un petit dégoût. D'accord? Un petit dégoût que, quand je vais penser à ça, la première réaction que j'aurai, je dirai, c'est pas bien. Bon, bien sûr, après, si j'y réfléchis, vous inquiétez pas, la première nature reviendra, hein. Comme on dit, chasse le mal, le naturel reviendra au galop, d'accord? Mais, ce que t'as gagné au moins, c'est que, quand tu as pris quelqu'un, tu l'as éduqué dans une bonne famille, dans un bon endroit, tu l'as fait une seconde nature, bon, au moins cette seconde nature le protège un petit peu. Après, bien sûr, ça pourra revenir, mais c'est déjà ça ce qu'il te dit. Tu dis, écoute, essaye de développer en toi un dégoût vers le mal, et essaye de temps en temps de penser à la grandeur de Dieu. Joue-toi de sadique, tu vois, t'es là, tu es dans la forêt. Essayez une fois, je vous promets. Non, mais ça marche. Alors.
À faire le dégoût, c'est, on n'y arrive pas. C'est-à-dire finalement se dire bon, c'est parce que c'est interdit, je fais pas. C'est peut-être pas plus.
Tu vas y arriver. Ça, tu dois le faire, c'est sûr ça. Mais tu dois quand même essayer de passer à l'étape supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et dans le dégoût, mais et dans le bien. Et dans le dégoût et dans le bien. Par exemple, tu vas aller une fois dans la nature, la montagne, la mer, etc. La mer avec rien à côté, d'accord? La mer, d'accord? Et tu regardes. Et tu es là, tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et tu te l'ajoutes sadique, tu vois, tu commences à penser, ah, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est beau, regarde les montagnes, la nature, non mais c'est vrai, tu te laisses envoler un petit peu, d'accord? Il y a des brachot à faire, tu te laisses envoler. Alors après tu vas dire, mais est-ce que je suis pas en train de, m'envoler un petit peu? Tu dis, c'est pas grave. Au début t'es un peu mytho, mais après avec le temps, t'as une seconde nature qui t'apprend à faire attention, qui t'apprend à profiter du spirituel et à kiffer le spirituel, et qui t'apprend à avoir au moins un petit, un chouïa, un dégoût du mal. Ou kshiyargil, les samyar tafshob Hashem. Je finis avec ça. Quand il va s'habituer à réjouir son âme à Kadosh Baruch Hu, à l'aider de bonne note big de la Tachem en réfléchissant à la grandeur de Dieu, à rebe itarota dil tata, itarota dil ela. Toi, fais un effort, un petit effort d'en bas, et Dieu fera son effort d'en haut. Quand Dieu voit que tu fais un effort, il va te booster. Ça veut dire, il te dit en d'autres termes, il te dit, écoute, tu n'as pas l'obligation de le faire. Ce qui compte, comme a dit M. Benita, c'est que t'as pas fait la vera. Mais on te demande plus que ça maintenant. Mis à part le fait que t'as pas fait la vera, on te demande d'essayer de vivre la chose. De vivre le dégoût du mal, et de vivre l'attirance vers le bien. Alors il te dit, d'abord, ça fait une seconde nature. Et tu arriveras à quelque chose. En plus, quand Dieu évoque que tu fais un effort, il va dire, bon, allez, le pauvre, il bosse. Bien sûr, c'est lui l'effort. Il va te donner. Il dit, bon, comme je vois qu'il fait un effort, on va lui laisser un an de tranquillité. Bien que je ne devais pas lui donner. Maintenant, il reviendra après un an. C'est pas grave. D'accord? Mais c'est un encouragement. Ça veut dire, quand Dieu évoque que tu fais un effort, lui aussi, il fait un effort. Il te donne quelque chose que tu n'avais pas l'option. Il te rajoute l'option. C'est comme ça que ça marche. Vechuleai et tout ça. Vechuleai, peut-être. Yéaré à la brouach mimarom. Peut-être que Dieu aura pitié sur lui du ciel. Et quand il te voit galérer, le gouvernement, il trime, il essaye de sentir, mais il y a rien, ça décolle pas, il y a rien du tout. Il est là, il essaye, il simule, il y a rien du tout. Il te dit peut-être que Dieu aura pitié sur lui. Veiske l'ifrinat brouach mishorach et tzadikta verbo. Peut-être que Dieu va lui dire, on va te mettre une petite neshama, on va te greffer une neshama, on va te faire une greffe d'une neshama d'un tzadik qui est déjà parti en haut, on va te greffer une petite neshama d'un tzadik. Peut-être, c'est déjà arrivé. Des gens comme ça, tout d'un coup, ils se lèvent, ils sont une autre personne. On lui a fait une petite greffe, tu vois, on lui a rajouté une petite option, tac, c'est fini, il a l'option maintenant. Et l'option, il la garde maintenant, il a été greffé. La voix de ta chaîne, Bessimcha Amitit. Et là, à ce moment-là, quand tu as cette greffe, tu te mets à servir Dieu avec une grande simra, qui est directive, comme c'est écrit, Simchut Tzadikim Bashem. Que les tzadikim se réjouissent en Kadosh Baruch Hu, v'tit kayem bo be'emet ashvua shemashbim te'it tzadik, et qui pourra avec ça, grâce à ça, accomplir vraiment la shevua, le serment sur un tzadik. Donc pour résumer, parce qu'on a eu pas mal de choses, c'est très simple. En vérité, c'est très bien. Il y a un fil conducteur, c'est que par définition, on sait qu'il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont créés pour être tzadik, des gens qui ne sont pas créés pour être tzadik. C'est la réalité. bien qu'on sait que c'est comme ça, et qu'il y a des gens qui ne sont pas conçus pour être sadiques, donc ça veut dire ni ils auront le dégoût du mal naturel, et ni ils auront le plaisir spirituel, on te dit, toutes les façons, ce qui compte, c'est de ne pas faire la vera. Ça, tu le fais, mazal tov. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Essaye de développer un dégoût vers le mal. Parce que, essaye aussi de kiffer le spirituel. Même si tu crois que tu simules, cette simulation, cette croyance, va créer une seconde nature chez toi, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a dit, peut-être que Dieu, quand il te verra ça, il dira, bon, il fait un effort, je vais lui laisser un peu de tranquillité. Deuxièmement. Troisièmement, peut-être même, qu'est-ce que tu vas faire ? Il va te greffer un petit peu d'une échamade d'un tzadik, comme ça, là, vraiment, tu vas devenir tzadik. Peut-être, qu'est-ce que t'en sais ? Tu dois essayer. Et là, quand tu viens de tzadik, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'autoroute, après, c'est fini. D'accord ? Donc, en tout cas, ce qu'il te dit, ne te limite pas à ce que tu as. Ne dis pas, bon, je suis un bon juif, je fais mes petites mitzvot, je faute pas, c'est déjà pas mal, ça va, demande pas trop. Dis, vise, t'inquiète pas. Tu crois que Dieu est limité, c'est rien pour Dieu à Kadosh Baruch Hu. Tu crois que Dieu, c'est compliqué pour lui te donner. Il faut viser très très haut. Et qu'est-ce que t'en sais ? Peut-être que Dieu te donnera. Je dois viser un maximum, comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il m'enverra un maximum. Voilà ce qu'on peut résumer pour aujourd'hui.
Toujours plus haut.
Ça veut dire, on doit se connaître, mais en même temps, toujours aller plus haut. D'accord ?
J'ai un copain qui m'a raconté une anecdote incroyable. Il m'a dit, bon, lui, chômeur mitzvot, etc. Mais bon, le fait de manger du pain dans la souka, et il disait, bon, des fois j'ai lâché, parce qu'avec le boulot, machin, c'était compliqué, etc. Et un jour, il a un type complètement à l'ouest, enfin, à l'ouest, il fait kippour à peine. Et un jour, il doit manger avec ce type-là pour affaire, etc. Il lui dit, ah non, je peux pas, moi je mange pas de pain en dehors de la souka. Il fait, purée, comment ce type qui était complètement en dehors, mais dit, parce que depuis petit, en fait, on lui a tellement ancré qu'on mange pas de pain dans
donc
la souka,
c'est en lui.
Que c'est en lui.
C'est une seconde
et
nature.
Et que même s'il a tout lâché, voilà, c'était tellement ancré souka, que ses parents, ils l'emmenaient dans la soukotte à chaque fois.
Non, il mangeait en dehors de la souka.
Ah, en dehors.
Du coup, voilà, jamais en dehors de la souka.